Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Dis donc, qu'est-ce que t'as à te foutre de ma gueule, toi? Avec
bonjour,
moi aujourd'hui, vous l'avez entendu, Julo, il y a
salut.
Aussi Julien.
Bonjour.
Et le philosophe Thomas, qui fait partie de la
hello,
team
hello.
Philosophe, la team
hello,
tribune,
team philosophe.
dont vous avez pu lire dernièrement, d'ailleurs, je vous le conseille fortement en lecture. Et si on enterrait la durée de vie? Et la durée de vie, justement, on va en parler un tout petit peu.
Avec,
notamment...
avec des commentaires, évidemment, fournis, riches en nuances. Et on vous en remercie.
Plein de mesures et plein de modération comme d'habitude. Et la durée de vie, on va en parler un petit peu puisque nous allons parler notamment de la durée de vie de la Wii U. Et oui, puisque aujourd'hui nous avons décidé d'apporter un spectre plus large, Nintendo, de manière générale, oui.
Mais pour être
Julien,
pour parler de la durée de vie, il faut être encore en vie.
Oui.
Mais la console est morte.
Non, pas encore.
Ah, d'accord.
Pas encore, pas encore. J'avais on va cru. En parler dans quelques secondes. On va évidemment parler.
C'est eh pour bien... vous, les forumers. Hein. Je vous donne des cartouches.
C'est gratuit, les... allez-y. Vraiment.
Il vous tend des perles,
c'est gratos. Je le fais dès le début du podcast pour que hein, vous puissiez...
Nous allons évidemment faire le bilan de la Wii U et de la 3DS. Nous allons aussi parler des différentes licences. Ensuite, on va surtout s'attarder sur l'idée que Nintendo, probablement... est en train de préparer un grand retour, un fat comeback comme on est en train d'imaginer avec la NX dont on va parler aussi évidemment tout à l'heure,
en tout cas.
Et qui a peut-être été initié d'ailleurs avec Miitomo dont nous vous avons parlé il n'y a pas très longtemps non plus dans une petite vidéo très sympathique, explicative et critique de cette première application smartphone
et Graveleuse aussi.
Et Graveleuse aussi, on a fait beaucoup de blagues. Merde, je me rappelle.
Ouais, c'était pas mal, ouais.
Ah ouais,
je confirme, ouais.
Ah bon, je n'avais pas le souvenir. Bon, on.
Ah, ça volait pas très haut, hein.
On retouchera ça.
C'est ça, les réseaux sociaux.
Dans pas très longtemps.
C'est pour ça que vous m'avez invité d'ailleurs. C'était pour relever un
petit peu le niveau.
Et à cette question, peut-on croire au grand retour de Nintendo?
Ouais, ouais, ça va, je te remercie.
À cette question, peut-on croire au grand retour de Nintendo? Évidemment, eh bien, nous poserons évidemment d'autres questions comme savoir si elle. Si Nintendo peut regagner la confiance des joueurs, et justement la confiance des joueurs, messieurs, aujourd'hui, elle en est où par rapport à Nintendo?
Bah elle est assez largement tombée dans les abîmes. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, je parle de manière très pragmatique, la Wii U a été une console qui est possédée aujourd'hui par des Nintendo fanboys et une écrasante minorité de joueurs occasionnels. Quand tu fais en gros 10 millions de ventes,
on a 12 millions hein.
À la fin, oui, donc
12 millions à la
10,
fin. De...
C'est plus proche de 10 que de 20 en tout cas.
Bah, oui, si tu le prends comme ça, c'est
carrière,
plus proche de 10 que de, bah, que de 72, oui, ça c'est certain.
C'est
oui.
Aussi plus proche que 15,
mais
oui,
c'est pas très glorieux.
Les
surtout.
De passage, c'est 10, 15, 20,
oui, bon, moi
25,
je te donnais juste un chiffre exact. Merde.
Quand tu es à la fin de ta carrière, en gros, tu es à 10 millions de ventes. C'est ouais. Quand même le plus gros four de l'histoire de Nintendo pour une console de salon,
non.
On va dire officielle.
Non,
console
virtuelle,
console de salon.
Super console de salon. Et...
Mais j'ai dit officielle. Ouais. Vraiment sur la gamme vraiment officielle. C'est assez catastrophique. Surtout quand tu viens juste avant.
Mais surtout en 4 ans.
D'un succès phénoménal comme était celui de la Wii. Après.
On rappelle,
on
la Wii,
voir.
C'est 102 millions de consoles dans le monde, ce qui n'est pas le record de Nintendo, hein, puisque le
bah
gros
pour les
record.
De salon aussi.
Mais le gros record global, c'est la DS.
Oui, mais c'est 150... pas une console de salon.
Non,
c'est
salon.
Pas les mêmes gammes de prix, etc.
C'est pas
la même chose.
Pas du tout.
Mais ce qui est terrible, c'est rappelez-vous combien certains d'entre vous étaient fous, montés au créneau. J'avais fait une news il y a maintenant quelques années en disant est-ce que. En essayant de voir à peu près où est-ce que les ventes de la Wii U en fin de vie pourraient se situer si on regardait un peu l'histoire, l'historique de Nintendo. Et j'avais dit en fait, l'accident c'est pas la Wii U, l'accident c'est la Wii.
C'est la Wii.
C'est la Wii qui est bizarre, qui est une anomalie. Donc si on élimine cette anomalie, parce que c'était un trop gros succès, on regarde génération après génération, NES, à chaque fois, 20-25% de baisse des
ça
ventes.
Ça ne fait que décroître.
Super Nintendo, beaucoup moins. N64, beaucoup moins. GameCube, beaucoup moins. Et donc, ça nous plaçait dans une fourchette, on va dire, de logique historique de la Wii U, qu'elle ne fera même pas, puisque ça la plaçait entre, je crois, 15 et 25 millions de ventes.
Exactement,
et
ouais.
Il est très probable qu'elle n'atteigne même pas la fourchette basse. C'est dire à quel point c'est un échec tonitruant. Chez Micromania, pareil, hein, on l'avait fait en news, vous étiez certains à hurler, mais le truc, c'est qu'à un moment, c'est les faits. Ça veut dire que c'est pas ce qu'on aimerait. Nous, je crois qu'on est tous unanimes là-dessus. On rêverait que chacune des consoles marche du tonnerre de Dieu, qu'elle puisse accompagner par des jeux historiques à chaque fois, etc. Mais bon, notre rôle aussi est d'analyser un peu l'industrie et de vous donner des informations, et pas forcément lorsqu'elles arrivent, mais parfois les anticiper un peu ou essayer de les comprendre. Ce qui s'est passé avec la Wii U, c'est dramatique. Et je pense, pour répondre à ta question,
oui.
que dans ce laps de temps, ils ont perdu énormément de joueurs, même des joueurs historiques, même des trentenaires, qui aujourd'hui, moi je le vois autour de moi, je parle avec des gens qui sont pas des gamers hardcore, mais qui aiment le jeu vidéo, qui sont nés avec une NES dans la main, qui pour eux, la Super Nintendo est la meilleure console de tous les temps, etc. Maintenant, quand ils voient une pub d'un Mario Kart, c'est même pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils se marrent. Ils s'en foutent, ils disent non mais c'est bon, c'est toujours les mêmes jeux, en plus c'est moche, en plus il n'y a pas les jeux que moi j'aime, GTA, Call of et compagnie, les grosses licences, les FIFA et compagnie, donc oui, Nintendo a énormément de chemin et de travail à fournir s'ils veulent redevenir un acteur majeur des consoles de salon, c'est clair.
Auprès du grand public, d'une manière générale.
Mais c'est pas forcément que le grand public. Ouais. Ou bien dans ce cas-là, tu dis que 10 millions, c'est que les...
Que les hardcore.
Les fanatiques.
C'est possible aussi.
Et encore, je veux dire, moi, à titre personnel, c'est la première console que j'ai pas achetée day one chez eux. Enfin, j'ai fait plein de sorties avant. La Wii U, je me suis dit, bon, on va attendre de voir. Je trouvais que le prix était élevé, l'offre à la sortie, pas extraordinaire. Et pour le coup, j'ai fait l'impasse dessus. Et je l'ai acheté depuis, tu vois, mais il n'y a pas eu cette envie au moment de la sortie.
C'est la première où au line-up, Nintendo n'a pas avancé la grosse, grosse cartouche
qui faisait mal, ouais, la Killer App qui
va donner envie.
Il
n'y avait pas leur Mario 64, il n'y avait pas leur Wave Race ou leur Luigi.
Oui. Elle est où la Killer App de la Wii U?
Ouais, c'est ça.
Maintenant,
quel est le jeu emblématique?
Des années après la sortie, parce que tu me dis au line-up de son lancement. Ouais, ok. Et après, elle est où la Killer App?
Bah moi c'est Bayonetta 2 hein,
ouais d'accord bon bah c'est pas une killer app. C'est un très bon jeu, une fois de plus attention, on n'est pas du tout en train de dire
non, c'est pas un jeu, c'est une killer app, faut pas confondre, c'est une killer app mais c'est pas un system seller.
Oui.
Ah oui, c'est beau.
System, ouais, okay. System seller, c'est,
mais je pense que c'est ce qu'on voulait dire,
ouais, ouais. Vous vouliez dire,
oui, mais la différence
que les killer app,
et encore, enfin c'est pas une killer app.
Ah, des jeux qui tuent, moi, si je peux, ouais. Je pense qu'on peut quand même en citer quelques-uns.
Killer app, pour moi, il y a un côté un peu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo quand même. Bayonetta 2, très bon jeu. Mais est-ce que vraiment il a marqué l'histoire du jeu vidéo? À la limite, le premier, peut-être,
bah,
pourquoi
pour
pas dans
ceux
le démon,
qui ont joué,
deux.
Oui. Hein.
Oui,
mais vous parlez pas de la même chose.
Si tu as joué, tu sais.
C'est pas un
si
jeu
tu te mets dans
quoi.
La peau d'un gamer, fan de Platinum, etc., oui, évidemment, ça va marquer ton histoire.
Mais de manière générale.
Mais d'une manière générale, je sais pas si c'est marquant.
Mais est-ce que dans l'histoire des Beat'em All, si tu veux faire un bouquin, etc., tu mettrais Bayonetta 2, genre, voilà. Tu dis, c'est un super jeu, mais est-ce que c'est.
Je crois que tu mettrais le premier Bayonetta, pas forcément le deuxième.
Bah, personnellement, oui. Et est-ce qu'on aurait autant parlé de Bayonetta 2 s'il n'était pas sorti exclusivement sur Wii U? De ça aussi, ça l'a mis en avant, genre ah ouais, il y a quand même une exclue en plus d'un jeu assez mature qui avait eu un succès critique à l'époque
où
il était sorti. Ouais.
Moi je retiendrai, puisqu'on parle de ça, un jeu en fait, c'est Splatoon.
Ouais. Bah,
on va être très important dans tout ce qu'on va se dire là.
Exactement.
On allait parler parce qu'on se dit on pouvait.
C'est presque une killer app
et ça
a presque
été un
système
seller.
Parce que les ventes ont rebondi seulement à ce moment-là.
Et philosophiquement.
Plus qu'avec Mario Kart.
Très important.
Et plus qu'avec Smash Bros. Aussi.
Et il porte les germes de l'avenir de Nintendo.
Exactement.
Et c'est probablement. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un jeu extrêmement important. Je conclue juste très rapidement. Souvent, les joueurs moquent un peu la Xbox One, etc., au regard du succès phénoménal de la PS4 aujourd'hui. Mais quand même, la Xbox One, sortie un an après la Wii U, est déjà largement devant.
Il y a plus de 20 millions.
En termes de vente par rapport à la Wii U. C'est une fois de plus à remettre en perspective du naufrage qu'est la Wii U. C'est-à-dire qu'on peut être sympa, machin, on vous laissera l'être. Mais nous, on n'a pas à être ni gentil ni méchant. On a à être factuel, et les faits, c'est un naufrage sans précédent pour Nintendo. Ça ne remet absolument pas en cause le fait qu'il y a eu des très bons jeux sur cette console. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de bons jeux, etc. Mais il n'y a pas eu assez, et pas assez fort, des jeux qui ont fait germer chez les joueurs l'envie de l'acheter.
Et avant même les jeux, pour l'envie d'acheter, il y avait quand même un concept phénoménal avec la Wii, et un concept qu'on n'a pas compris avec la Wii U et qui n'a pas percuté ni dans la tronche des joueurs,
c'est
ni dans la tronche du grand
ouais.
public. Donc ça aussi, c'était d'ailleurs avant même la sortie, dans les nombreux podcasts qu'on a pu faire et dans lesquels on en a parlé, on se disait toujours la même chose. On se disait, mais comment vont-ils expliquer un truc génial avec cette console? Ils y sont
pas
arrivés.
Réussi.
Alors, pour leur nouveau président, c'est le souci en fait, c'est que le succès de la Wii a presque, enfin, est-ce que c'est une excuse marketing, etc., mais pour lui ça a tellement vampirisé en fait le marché que pour eux derrière, mais c'est l'explication qu'il donne,
bien
tu
sûr.
vois, et c'est son discours,
mais
après on est d'accord ou pas, mais pour lui, voilà, il y a eu des problèmes de communication, c'est certain, mais le marché était tellement saturé de la génération précédente que pour lui, c'était difficile de pénétrer en fait des foyers qui étaient déjà équipés sur quelque chose qui, au niveau de la différenciation, était entre guillemets minime de par le nom.
Dans ce cas-là, il avoue à demi-mot une erreur qui a été de lancer cette console plutôt que, enfin, aussitôt, quoi.
Oui, ou la communication qu'il y a eu autour, on peut y revenir, c'est le point de départ. En fait, la catastrophe, elle commence au moment de l'annonce. C'est... Moi, j'ai suivi la conférence de chez moi, j'ai pas compris. Vraiment, pour le coup, voilà, je me suis demandé à la fin de la conférence, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Il y a un contraste par rapport à l'époque où on faisait des annonces de la Wii, où on fait une annonce de la 3DS, où effectivement, c'est toi qui m'en a reparlé avant qu'on prépare le podcast, où tu vois qu'à l'époque, c'est quasiment c'est l'effervescence, c'est limite les confettis qui sont jetés, les
pom-pom girls
arrivent, les femmes accouchent directement, enfin voilà. Et là, tu vois pour la Wii U, effectivement, où c'est plutôt l'interrogation, et je crois, même si je me rappelle, que ceux qui étaient à l'E3 à ce moment-là chez Gameblog, au moment de la, où ils sont sortis de la salle.
Alors, on a fait une vidéo avec d'autres membres de la presse, il y avait Guillaume Delalande de LCI, il y avait d'autres personnalités.
Et il y avait des points d'interrogation et au-dessus de vos têtes.
Exactement,
hein.
On disait, vous avez compris,
c'est un accessoire, c'est un
machin, mais on n'était pas affirmatif. Et je me rappelle même, on était allé voir Mathieu Minel à l'époque, qui était responsable de la communication de Nintendo. Je lui avais posé la question, vous avez une fois de plus l'interview sur Gameblog, mais c'est quelques heures après la conf pour lui poser vraiment la question. Oui, il y a une machine aussi, etc. Et d'ailleurs, on avait même fait des photos, des bornes de démonstration pour dire ouais, il y a bien une machine. Effectivement, visuellement, elle ressemble vachement à la Wii, mais c'est pas la Wii.
C'est ça qui avait trompé d'ailleurs aussi, c'est qu'elle ressemblait tellement à la Wii qu'on avait cru que c'était une Wii et que le gamepad était juste un accessoire.
Mais juste vraiment très rapidement, ce que
tu peux t'étendre,
monsieur président.
Temps,
non, mais parce qu'il y a plein de trucs à dire, puis je monopolise un peu la parole en ce début de podcast, je vous la laisse bien après. C'est un mensonge. C'est un aveu de faiblesse incroyable. Et pour moi, c'est mal commencé sa présidence que d'essayer de se cacher derrière ça. La Wii était une bénédiction pour Nintendo. Tout comme l'iPhone a été une bénédiction pour Apple. Tout comme la PlayStation première du nom a été une bénédiction pour Sony. Quand tu pars d'un succès aussi phénoménal, normalement, la suite, tu surfes dessus et t'accélères. La PlayStation 2... a cartonné sur le succès de la PlayStation 1. L'iPhone n'a cessé de grimper sur le succès des premiers iPhones. Et ça, tu peux le décliner sur tout. Quand tu as un succès aussi fort, normalement, tu construis autour de ça et en fait, tu as gagné une échelle. Et eux, en fait, ils se sont effondrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été nullissime en communication et que ludiquement, ça n'a pas suivi.
Et par deux fois en plus, parce qu'on peut faire le même parallèle avec la DS et la 3DS, en fait. Parce que la 3DS, c'est pareil. Elle s'est beaucoup moins bien vendue. Au niveau des jeux, là, moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressortie. Elle prend la poussière sur une étagère. Sur les deux marchés, salon et portable, ils ont un peu réitéré en fait la même erreur dans la dénomination, dans la communication qu'il y a eu autour. Et si, si nous-mêmes, on est dubitatif sur est-ce que c'est une nouvelle machine en parlant de la Wii U, si même les gens avertis se posent la question, là, le grand public, tu l'as perdu, mais définitivement, c'est foutu.
C'est con, hein, mais il l'aurait appelé la Wii 2.
Il l'aurait appelé,
c'est pas sexy trop, hein. Mais ça aurait été tellement plus clair dans la tête des gens comme la PS1, la PS2. Et j'ai envie de dire même sur du côté d'Xbox, Xbox One, est-ce que c'était le bon nom par rapport à... Ils ont fait Xbox 360, Xbox One. C'est perturbant. Tu fais un truc beaucoup plus simple. La 1, la 2, la 3,
le
la
nouvel
4,
iPhone.
Le nouvel. Eh ben c'est facile. Et les gens y comprennent. Et ça avance. Et je veux dire, ta qualité, c'est dans les jeux, c'est dans les trucs. C'est la première console, la Wii U, où Nintendo a été incapable... à ce jour encore, d'exploiter convenablement sa propre interface et son propre gamepad. C'est la première fois que Nintendo ne maîtrise pas sa propre machine. D'habitude, ils te sortent des manettes un peu étranges et c'est les seuls à te savoir te montrer que putain, mais ouais, mais ils avaient raison. Bah là, non, c'est Ubisoft avec Rayman Origins et avec
Zombie
U qui ont le mieux utilisé à ce jour le gamepad. Mais c'est à pleurer.
Bon, il y a Star Fox qui arrive dans pas très longtemps. Ouais. Et puis Super Mario 3D World, mine de rien, utilisé assez bien, même si on n'a pas forcément.
Super Mario 3D World, je suis pas. Star Fox, je veux bien,
mais en quoi ?
Eh ben, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilisait pas dans Super Mario 3D World quand on a fait le test. Par exemple, des endroits tactiles qui permettent d'accéder à d'autres mécaniques de jeu.
C'est
le fait
gadget.
De pouvoir. Mais c'est du gadget, mais c'est du gadget qui fonctionnait très bien et auquel on pouvait se
fier. Oui, mais c'était
vraiment
pas véritablement du gameplay asymétrique, parce que c'est ça.
Non, c'est pas du gameplay asymétrique.
C'est le gameplay asymétrique. Et Nintendo, ils en ont fait avec Nintendo Land, qui était le
absolument
jeu de lancement. Et après ça, ils ont été incapables de l'utiliser. Je rejoins Julien dans tous les jeux qu'on suivit. Et je dirais le premier qu'ils utilisent depuis, on va dire Splatoon, qu'ils utilisent en termes de gameplay, etc. Et pas forcément en termes de gameplay asymétrique. Et en gameplay asymétrique, récemment ou même enfin prochainement Star Fox.
Oui,
à part
les,
ça
les party games façon Mario Party ou je
oui,
sais
pas effectivement le Wii comment ça s'appelle
et le truc Animal Crossing oui, Wii Party, et le Animal Crossing bizarre ouais. Là je sais plus comment bon, il s'appelle
enfin je veux dire le Mario l'a pas utilisé etc.
Oui, t'as l'impression qu'ils ont pondu un concept en disant l'idée est géniale, on verra bien après ce qu'on va en faire, et finalement bah, ça rejoint ce qu'on disait sur le Wii Motion Plus. Pareil, ils ont pondu le truc, ils ont sorti Wii Sport Resort, regardez comme c'est précis, ça marche bien, etc. Et derrière, quel autre jeu
ça
l'a utilisé?
Il
ben, y a juste Skyward Sword.
Et c'était chiant.
Et voilà, avec,
et son défaut,
avec le succès qu'on sait.
Plus,
voilà, ils ont voulu en mettre absolument partout pour justifier l'accessoire. Résultat, le truc s'est révélé injouable à un moment donné. Et là, sur le gamepad, bah, c'est pareil, on alors, attend. J'ai pas encore fait Star Fox, mais on attend effectivement le jeu
bah,
qui
là,
va
c'est
reprendre.
C'est du vrai gameplay asymétrique, t'as deux choses différentes.
Qui va être pertinent
coup,
avec ça. Quoi.
Mais du coup, le talon d'Achille du truc, c'est que ça divise. La puissance système par deux, parce qu'il faut afficher deux images, deux gameplay, deux environnements 3D différents, et du coup les jeux sont moches.
C'est une console d'un autre temps.
Et Star Fox
bah, c'est qu'ils n'ont pas fait comme avec la Wii justement, ou avec Wii Sports. Au moins on avait une espèce de démo des possibilités justement de la Wiimote, et c'est peut-être le truc qui manquait justement avec le gamepad, c'est d'essayer déjà d'abord d'expérimenter différentes possibilités, de les proposer aux joueurs pour voir pour avoir leur retour, comme avec un Wii Tennis,
un
Wii Golf.
Tu l'avais un peu dans Nintendo Land.
Ils l'ont plutôt bien fait avec Nintendo Land,
mais pas suffisamment.
Nintendo Land, j'ai adoré.
Moi aussi,
j'ai trouvé ça super.
Il y avait plein de bonnes idées, sauf que derrière, sur des jeux entre guillemets d'envergure, ils n'ont pas réussi à récupérer toutes les mécaniques que ça pouvait ouvrir.
Absolument. Mais il y a un autre point quand même qu'on peut soulever, c'est qu'après plus de 30 ans dans le domaine des consoles, que ce soit de salon ou portable, au niveau des licences, au niveau des surprises, on n'est plus vraiment au niveau.
C'est rincé. Je veux dire, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu sur Gameblog. Nous n'avons cessé, et vraiment pas que sur Gameblog, mais nous n'avons...
Je sais pas pourquoi j'ai lancé ce son.
Allez, on y va à l'attaque.
Nous avons cessé d'inviter Nintendo.
Pardon, on doit arriver
à plus de créativité, okay. De nouveautés, d'oser des nouvelles licences. Ça nous amènera à Splatoon dans quelques instants. Il aura fallu le temps, mais ils l'ont fait et ils l'ont bien fait. Et tant mieux. Et c'est l'une des raisons qui fait que, en vrai, on a encore de l'espoir sur l'avenir de Nintendo. Mais enfin, s'il n'y avait pas ça, franchement, c'est Mario. Avec le comment on appelle ça pour faire de la pâte à tartiner là, le rouleau à pâtisserie là. Tu l'étends, tu l'étires et il fait tout
n'importe
quoi.
Ah oui, l'autre pâte en fait.
Oui, c'est ça. Peach et compagnie, c'est bon, ils sont super ces personnages, ils sont mythiques, ils permettent de vendre des tétrachiers d'amiibo et de se faire rentrer plein d'argent dans les caisses, mais
mais est-ce que c'est
laissez
pas
les respirer un peu,
est-ce
quoi.
Que c'est pas les mécaniques qui sont en cause plus que les personnages en fait, parce que tu prends les entre guillemets gros jeux qu'ils ont sortis avec leur licence maison. Mario 3D World, bon, t'as déjà vu ce que ça donnait sur 3DS avant. Ils ont fait un Kirby en 2D qui reprenait les mécaniques d'un épisode DS sorti en 2004 ou 2005. Le Yoshi 2D qui était très sympa au demeurant, ils reprennent le style graphique et les mécaniques du Kirby de la Wii. Enfin, les personnages, c'est presque pas le problème, j'ai envie de dire, c'est les mécaniques.
Oui, c'est pas le problème, parce que quand ils créent Mario Kart sur Super Nintendo il y a des années, ils le font avec l'univers Mario, etc., mais ils font un jeu de cartes. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais parce qu'à l'époque, ils avaient pas encore fait. C'était la première fois que Mario. Enfin, pas la première fois, parce qu'il y avait Dr. Mario et tout, mais c'était encore assez rare qu'il sortait, donc ça faisait encore un peu nouveau. Là maintenant, ils ont tout fait. Quoi.
Oui,
tout,
le tennis,
du basket,
le football,
du
football,
du golf, du bidule. Mais est-ce qu'en vrai, en creux, sur cette génération-là, est-ce que Nintendo a pas été en sur-régime sur la Wii ? Est-ce qu'ils se sont pas genre fatigués intellectuellement, commercialement ?
Ah bah oui, musique, ça a dû fatiguer intellectuellement. Ça, je suis certain,
en fait, ils ont presque respiré pendant la période de la Wii U, et donc ils étaient un peu claqués, mais... quoi, et qu'on espère.
Ils ont pris des forces,
reprendre des forces. Parce que pour moi, la Wii U, ils l'ont abandonnée depuis longtemps. Tout comme la 3DS, ils l'ont abandonnée depuis maintenant.
Mais comment tu reviens d'un succès de ouf comme Wii Sport et Wii Fit ? Vraiment, qui sont des cartons, mais incroyables. Et même Mario Kart, il avait un numéro, le Mario Kart Wii, Mario Kart Wii, qui est le jeu de course le plus vendu de tous les temps. On arrêtera. Ça me trouvera le cul jusqu'au restant de ma vie. Mais comment tu reviens de ça après? Je veux dire, une fois que tu as été au top, une fois que, je sais pas, comme Kanye West a sorti ton dernier album, qui est un truc de malade,
j'ai
qui s'est vendu à des
facile.
Millions. Ouais, mais voilà.
Se réinventer, c'est super compliqué. Mais nous, entre guillemets, on n'est pas leurs parents, tu veux. On n'est pas là pour faire c'est pas grave, les gars, machin et tout. On est là pour les juger, les adorer, les aimer, les encenser quand c'est bien. Et je crois que vraiment, une fois de plus, allez voir dans les tests les notes attribuées aux jeux Nintendo sur cette génération encore. Je crois qu'il n'y a pas En vérité, si vous vous posez deux secondes, vous verrez qu'il n'y a aucune volonté de bashing de Nintendo.
Oui, entre parenthèses, répétons-le, il y a eu des bons jeux sur Wii U.
Bah bien.
Il y a eu des bons jeux sur Wii U,
des jeux
cultes. Culte, je sais pas trop.
Ah si, si. Pour Bayonetta 2, tu pourras poser la question dans 30 ans, je te dirai toujours que c'est un jeu culte.
Ouais, mais alors après, il y a culte personnel et le culte unanimement.
Ah bah unanimement pour des. Moi je te dis.
Pour des centaines de gens.
Pour des ouf de Beat'em All. Pour des centaines de gens. Inattaquable. Bah ça fait mine de rien.
C'est super.
T'aimerais qu'il y ait des centaines de gens qui votent pour toi aux élections?
Non.
Bah si, comme Jacques Cheminade, tu gagnerais 250 000 euros pénard pour ta campagne et tu les garderais après.
Si. Ah bah pas du tout. Au contraire, ça te coûte de l'argent. Il faut qu'il y ait 5% des gens qui votaient pour toi pour être remboursé de tes frais de.
5% des votants.
5% des votants.
Les gars, ne déviez pas sur Jacques Cheminade.
Moi, si je me présente, je voudrais qu'il y ait des millions de personnes qui votent.
Je voulais parler de Jacques Cheminade, c'est tout. J'aurais pas eu l'occasion.
C'est bien.
C'était un défi de le caser là.
De quoi?
J'ai pas, quelqu'un t'a demandé. C'est un défi.
C'est le
jour. C'est lui-même.
Il a investi sur Plume.
Ouais. Bah il devrait, tiens. Ça pourrait peut-être lui rapporter des voix. On sait jamais. Donc la créativité en berne, les licences rincées, le fait qu'il n'y ait pas de surprise, que le gamepad soit pas utilisé, et le fait que Nintendo soit plus que jamais encore, je dirais même plus encore qu'avec la Wii, en vase clos permanent.
C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas leur vrai problème? Ils le disent en plus plusieurs fois, que ce soit Miyamoto, Iwata à l'époque, ils expriment le fait que des fois ils n'arrivent pas à trouver de nouvelles idées pour des licences. C'est comme ça qu'ils justifient qu'on n'ait pas eu de F-Zero à part le mini-jeu de Nintendo Land depuis.
Et les circuits de Mario.
Avec les autres licences, ils auraient pu faire un F-Zero. Moi j'aurais été parfaitement content avec un GX amélioré.
Oui, voilà, mais c'est ce que les gens réclament. Mais voilà, le GX, ils l'ont fait avec Sega. Ouais. Tu vois, par exemple, et à un moment donné, pour moi, il faudrait qu'ils apprennent, qu'ils comprennent qu'il faut peut-être, justement, pour respirer, déléguer un petit peu.
C'est ce qu'a très bien marché. Qu'a annoncé Satoru Iwata avant de décéder dans les dans le plan. Non, c'est pas ça. Tu sais, elle avait fait cette fameuse conférence.
Non,
je l'imagine avec l'accent du parrain. C'est alors tu vas développer avec les autres les développeurs.
Mais non, voilà. Donc il y avait eu cette fameuse conférence. Il avait dit voilà comment je compte sauver la Wii U. Et parmi les points qu'il avait évoqués, il y avait déléguer des trucs et l'emblème de ça, c'était Hyrule Warriors qui était confié à Bandai.
Voilà. Oui, mais ils ont fait.
Oui, non, mais désolé.
D'accord.
Mais... J'ai pas ouvert.
Et ils ont fait des choses bien aussi, les partenariats avec Retro Studios, depuis les Metroid Prime, les Donkey Kong Country Returns, qui ont été phénoménaux. Ouais. C'est des choses qui marchent. Bon, là, Star Fox avec Platinum Games, on attend de voir ce que ça donne.
On vous en dira plus.
Mais à un moment donné, t'as plus d'idées. Ok, enfin, qu'ils l'acceptent. Et qui, je sais pas, qui fasse un appel d'offres, qui propose à des gens avec qui ils travaillent depuis longtemps de proposer des choses,
de ce que
d'oser.
Je sais. Assez dommage pour le hors-jeu, il faudrait que je ramène mon bouquin. Parce que je lis actuellement un bouquin sur les offres de la politique,
ah,
et ça, c'est
oui,
assez
mais tu iras le chercher juste après.
Voilà. De ce que je sais, des idées, on leur en propose un sacré paxon. Des développeurs qui travaillent, donc des rétro studios et autres, leur ont proposé des projets, mais alors, à tire-larigot. Et de ce que je sais, souvent, ils devaient affronter un Miyamoto assez rigide qui disait « Ah, elles sont bien vos idées et tout, mais ce serait mieux avec Mario, avec machin. » Donc là, deux choix, c'est soit faire « Ok, d'accord. » Et par exemple, des galaxies et autres ont aspiré des idées qui venaient d'autres jeux ou d'autres licences ou d'autres développeurs, ou bien carrément fait bah non, enfin c'est pas
l'idée, ouais.
Pas,
mais c'est comme ça qu'est né Captain Toad, hein, d'ailleurs, au passage, hein. C'est à partir de justement du caractère obtus de Miyamoto que ce jeu aurait dû être un Zelda, je crois, si je me rappelle, et puis au final
un Zelda en cube
avec la particularité d'être un jeu de plateforme où il y a pas de saut, et au fur et à mesure, justement, parce que Miyamoto disait oui non attendez, il y a un truc qui me va pas, etc. C'est devenu Captain Toad, qui est un super jeu d'ailleurs, je tiens à le rappeler.
Oui, mais pas culte. Je suis tout à fait d'accord.
De quoi ?
Mais pas culte.
Non, 64, j'irais pas culte, j'irais
pas,
mais c'est un très bon jeu.
Pas beaucoup de jeux, mais ils étaient à chaque fois cultes.
Ouais, oui, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de jeux tiers aussi, hein. Rare à l'époque. N'appartenaient pas à Nintendo. S'ils appartenaient à Nintendo.
Si,
appartenaient à Nintendo.
Le contrôle qualité et le finish et le polish des jeux étaient faits chez Nintendo. Hein.
Oui, c'est
ce qui explique beaucoup de choses au moment où Rare devient un.
Passe chez Microsoft, ouais.
Voilà, et où d'un seul coup on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé,
les gars ? Pourquoi ils sont nuls d'un coup ? Ben oui, ouais. Parce qu'il manquait un contrôle qualité, ouais.
Exactement. On va peut-être passer aux choses qui ont quand même un peu satisfait.
Aux choses qui vachent.
Aux choses qui nous ont satisfait quand même.
C'était cool, hein. C'est comme qu'on a
fait ça. Attends, je retrouverai pas, peut-être, je pense, mon truc avec la cavalerie. Non, mais parlons quand même des choses qui ont un peu réussi. Et puis, comme ça, on va pouvoir amorcer sur ce qui nous fait penser que Nintendo va pouvoir enfin effectuer un grand retour, un grand comeback. On peut commencer par justement ces petites idées. Comme Splatoon, par exemple, cette licence nouvelle Qu'aurait pu être un Mario, je sais pas, un Mario DPS ou truc, ah, et oui. qui finalement est devenu Splatoon.
Je pense qu'il a été question de ça même. À un moment donné,
il y a des grandes chances, oui.
Ah, il y a de grandes chances pour qu'on ait dit, bah attends, on va mettre Mario, Peach et tout, ça va être plus marrant quoi.
Ils vont nager dans l'encre et tout.
Je vois tellement.
Non, et au final, c'est un jeu original. Peut-être qu'ils se sont dit, ils ont eu un sursaut de lucidité, ils se sont dit, attendez les gars, mais non, mais une nouvelle licence, c'est bien aussi. Et au final, ça a plu même aux Japonais, le design. Le gameplay qui pourtant est un gameplay TPS, enfin FPS même, TPS
ouais.
Avec une maniabilité au gamepad pour viser, ce qui est hyper étonnant pour un joueur japonais. Ouais.
Tu peux
pas obligé, mais si tu fais pas ça, t'es un con parce que c'est
ah, carrément.
Oui, bah oui, c'est,
tu mérites la mort par électrocution.
Si tu joues à Splatoon sans ça, t'as rien compris.
J'ai essayé sans, effectivement, je suis revenu sur la maniabilité de base.
C'est l'un des trucs géniaux du jeu.
Et donc ça fait partie des motifs de satisfaction quand même pour, pour Nintendo, c'est d'avoir quand même réussi au moins une fois sur cette génération.
Bah, ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont pris un truc existant, ils l'ont transformé pour en faire un truc original. Mmh. Voilà, donc le TPS, le gameplay multijoueur, en équipe, 3 ou 4 contre 4 4 contre 4 sur des maps et tout, un truc vraiment qui a été vu, revu dans un milliard de jeux occidentaux, etc. Ils le font à leur sauce avec cette idée de la peinture conjuguée avec celle du gamepad, le look des personnages, bref, et ça donne un super jeu. C'est vraiment super bien, Splatoon. Mmh. On s'est un peu moqué de moi au départ quand je le disais, mais
mais qui a fait ça?
Vous?
Moi?
Non, peut-être pas toi.
Ah oui,
non,
attends.
Non, mais ils se sont rendus compte, je pense,
Benjamin
qu'il y avait du potentiel.
Par exemple, il s'est moqué de moi. Non, pas du tout, non.
Tu vois à quel point ils ont mis en avant, en fait, l'équipe de développement qui est derrière. Là, pour le coup, ils ont dû se dire, il est peut-être temps de montrer de nouveaux visages, d'identifier de nouvelles personnes.
Oui, parce que c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que ça va devenir une licence qu'ils vont rincer maintenant.
C'est vrai qu'en général, du côté développeur, à part Miyamoto et Sakurai, c'est vrai que Nintendo.
On voit pas grand monde, quoi. Alors que là, ils les ont vraiment mis en avant. On les connaît un peu parce que c'est la team derrière les Animal Crossing, etc. Mais là il y a eu un vrai effort de communication qui a été fait pour présenter ces gens-là à la presse, faire des tables rondes, etc. Et donc tu sens qu'ils préparent un petit peu, qu'ils commencent à amorcer justement l'après Miyamoto qui va bien arriver un jour. Le mec a plus de 60 ans et à un moment donné où il faut prendre sa retraite et profiter un petit peu du temps qui nous reste à vivre sur cette planète. On sent que ça commence à s'amorcer gentiment, et c'est une bonne chose parce que tu te dis que peut-être à partir du moment où il va lâcher son emprise et où il va arrêter de vouloir mettre du Mario absolument partout, et ben peut-être qu'on va respirer un petit peu, redécouvrir de nouvelles choses, et qu'il y aura peut-être plus de titres innovants comme Splatoon qui vont arriver sur la prochaine génération.
Vous mettriez Mario Maker aussi dans le tas ou pas de ces motifs de satisfaction quand même de la Wii U?
C'est bien Mario Maker. Mm-hmm. Voilà. Après c'est pas non plus totalement fou et d'originalité, etc. Ouais. Parce que bon, il s'agit de créer des jeux,
c'est pas
de jouer
monde,
à ceux des
coup.
Autres, etc. Voilà, c'est moins universel qu'un jeu Nintendo habituel, mais c'est bien, hein. C'est bien
mais
fait.
C'est là où vous voyez quand même si ça a eu un succès très raisonnable, que le jeu est chouette, qu'il y a vraiment en termes de possibilités, il y a vraiment moyen de faire quelque chose si vous avez du temps et tout, assez
important. On l'a vu sur le net, il y a des niveaux complètement dingo.
Mais c'est là aussi où tu vois globalement, pragmatiquement, la perte d'influence relative de Nintendo, parce qu'ils l'ont pas transformé du tout en Minecraft. Ça aurait pu être un phénomène aussi. Ça aurait pu être un truc où ça explose totalement et tu passes pas une journée, mais pendant 4 ans, à voir des niveaux de Mario Maker dans tous les sens, à se partager, etc.
Mais avec
ça
10 millions,
a duré
avec 10 millions de Wii U aussi.
Et voilà.
Tu peux pas lutter, quoi.
C'est leur influence, elle a.
Ah, mais il n'y a pas que ça, il y a la philosophie aussi. Minecraft, tout ce qui est ouvert, ça permet justement, ça laisse, tu laisses les clés aux gens, mais tu leur laisses une possibilité de création énorme. Nintendo, on sait comment il fonctionne. Vous parliez de Miitomo's, tout ça est très très enfermé en fait. Mmh. On te donne les clés, mais seulement quand on l'aura décidé.
Sur les clés, il y a une laisse.
Voilà. Exactement. Donc tu peux pas laisser exploser complètement ta créativité, parce qu'il faut que tu restes quand même dans les lignes que même ont fixées. Du coup, ben c'est un peu castrateur finalement, parce que il y aurait certainement des possibilités vachement intéressantes, mais la philosophie de Nintendo les empêche en fait de décoller à un moment donné. Quand tu veux tout contrôler, ben tu t'empêches en fait les coups de génie quelque part.
Justement, parlant de tout contrôler, on peut revenir aussi sur cette histoire de communication avec le Nintendo Direct ces dernières années. Alors je sais que Julien par exemple les apprécie pas spécialement. Moi, je pense que c'est une idée plutôt sympathique.
Attention.
De s'adresser directement.
Mon propos n'est pas sur les Nintendo Direct.
Oui, c'est
mon
la communication générale.
C'est d'avoir de manière exclusive dédiée à la communication dans les Nintendo Direct. Mmh. Ça, pour moi, c'est une erreur magistrale. Et je veux dire, une fois de plus, tu peux quand même noter, une génération après, qu'ils ont perdu en influence, en présence même médiatique, hein, tout simplement, hein, exactement dans le même laps de temps. Donc à un moment, si personne se dit genre, mais pourquoi ? Si personne se pose la question de remettre en cause, non pas l'existence des Nintendo Direct, Nintendo Direct, très cool, très bien. Bon, moi je trouve qu'il y a pas grand, il y a fréquemment à peu près pas grand chose d'intéressant.
Bah, Satoru Shibata qui danse sur la Yokai Dance, c'est génial.
Bah, c'est cool. Il y en a certains qui vont adorer, d'autres trouver ça ridicule. Ça permet de faire des petits mèmes, des petites vines. J'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. En revanche, si tu ne fais plus que ça, non, il manque un truc majeur. Enfin, je veux dire, à un moment, si tous les autres, quelle que soit l'industrie de l'entertainment, de Tesla à Apple, à Samsung, à machin, fait des grands messes, des conférences où ils invitent toute la presse
pour les annonces,
endroit,
tu veux dire,
pour machin. Mmh. C'est, je sais pas, enfin, les mecs, c'est pas juste des débiles. Ils se sont pas dit, ah ben l'autre il l'a fait, alors je vais le faire. Non, c'est que ça a un sens médiatique. Et les médias, moi je veux bien que, ah, oh, mais maintenant la presse a plus autant d'influence et machin. Ok. Enfin, quand même, ça a son poids. Et par exemple, la conf Tesla, elle a un retentissement mondial aussi, parce que t'as les milliers de personnes qui sont dans la salle qui, à ce même moment, tweetent sur le truc, sont présents, font des photos sur le truc, donc ils font vivre le pré-show, le show, le truc, la machin, versus un pauvre petit truc en vidéo, pas gorgé d'annonces, parce que du coup, il dilue en plus les prises de parole. À trop prendre la parole, chaque parole devient plutôt vide.
Tu dis pas grand chose,
bah,
au final, ouais.
Honnêtement, des Nintendo Direct, on s'en rappelle vraiment de combien ? Un ou deux ? Alors qu'il y en a un toutes les quoi, tous les deux mois, tous les mois, etc. Donc, bah messieurs, dames de Nintendo, véritablement, gardez vos Nintendo Direct, tout comme les Treehouse. Très bonne idée.
J'allais dire, gardez vos Nintendo, foutoilé au cul. Voilà.
Et très bonne idée des Treehouse. C'est entre autres, alors, c'est pas eux qui ont imaginé le concept de faire des lives sur un salon, mais enfin, ils l'ont très bien fait à l'E3 il y a deux ans maintenant. C'est super.
Ils l'ont refait l'année dernière.
Et tous les autres constructeurs.
Et ils font leur tournoi au Nokia.
Et bah, c'est génial.
Sur Smash
Bros. C'est une très bonne idée. Moi, plus le salon est ouvert et que les joueurs, vous pouvez le découvrir de l'intérieur et tout, moi je suis très content. Ça nous challenge, nous, pour trouver d'autres idées pour vous le faire vivre autrement. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Mais en revanche, et c'est pas être égoïste pour dire genre oui, mais nous la presse, on veut être invité à un événement, on n'y gagne rien cet événement. Hein. Très honnêtement, allez, au mieux, on parle avec un pins peut-être, une fois ou deux. On a tellement pas le temps qu'au mieux, on prend un jus d'orange. Donc je veux dire, voilà ce qu'on gagne. Ok, super. En revanche,
sortez les
bouchons.
Oui,
en médiatique.
Un jus d'orange en or, c'est ça que tu veux. Avec des paillettes à l'intérieur et dans un verre en diamant.
Mais en revanche, en temps médiatique, en moment où la presse mondiale se regroupe, peut discuter même entre elles et dire t'as vu ça machin et tout, bah ça change tout, ça change tout.
Là pour le 3 il va y avoir une conférence NX,
c'est à souhaiter.
Je pense pas qu'ils vont annoncer la NX en Nintendo
et
Direct.
Bah, je souhaite que non, mais
tu me fais flipper là.
Bah, ouais, ils ont rien dit pour l'instant.
Oui, c'est vrai que on ne sait rien. Ouais, effectivement.
Mais c'est sûr que si tu veux un wow effect, si tu veux marquer les esprits, que ça soit repris un petit peu partout, il y a rien de mieux. C'est clair et net.
Bon. On va peut-être passer encore à des choses plus joyeuses. Avant ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Amiibo, comme la machine à cash
ça,
ultime.
Alors, là, c'est un gros succès
de Nintendo qui va sûrement continuer pendant des années et des années et des années avec des modèles différents de Mario et de
ça,
tous les autres personnages.
Confiance, rappelez-vous, avant qu'ils les lancent, mais bien avant,
on se disait mais pourquoi ils le font pas.
Je veux dire, c'est pas non plus une surprise, quoi.
Non, c'est pas une surprise.
On le sait,
ça...
ils ont un trésor de guerre formidable, un affect auprès de certains joueurs que maintenant on peut commencer à chiffrer à peu près. Hein. Mmh. Ils sont en gros core fans, probablement 5 millions, pas beaucoup plus. À quel s'ajoutent 5 autres millions de gens un peu moins fans qui ont aimé les licences. Donc ça fait pas beaucoup de gens, mais enfin 5 millions de personnes qui achètent 12 Amiibo en moyenne par personne.
5 millions, Jacques Cheminade serait très content.
Ça fait beaucoup. Ah bah oui, 5
Ah bah oui, il serait heureux, 5 millions.
Oui,
il fait plus que ça. Hein,
Mais bon, ça dure une fois de plus, si tu réinjectes pas des nouvelles licences et si les Amiibo ça continue comme ça pendant 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, ça aura pas le même succès qu'aujourd'hui. Donc à vous Nintendo de toujours bien entretenir la machine.
Si tu fais des Amiibo en laine Yoshi, à mon avis, ça va se passer.
Mais, bien sûr, mais
surtout s'ils sont géants, qui font 30 cm et que t'as envie de les prendre dans tes bras la nuit.
Mais une fois que t'en auras fait 50 des Amiibo Yoshi en laine, il faudra bien que tu fasses autre chose.
Absolument. Ouais, ça participe de leur nouvelle stratégie de communication.
Moi, je pense que pour moi, les Amiibo, c'est le point de départ justement du retour.
Ils veulent élargir parce que t'écoutes Kimishima, lui, justement, il dit ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus d'interactions en permanence avec nos licences. qu'au-delà des jeux, les gens rencontrent, voient Mario, que ce soit sur des fringues, sur des figurines, sur des jouets, etc. On veut que ça arrive de plus en plus souvent. C'est pour ça qu'ils bossent sur un parc à thème aussi.
C'est pour ça qu'a priori Mario sera présent dans le prochain, dans les mondes de Ralph 2.
Ils veulent que ça arrive. Ils veulent qu'il y ait une communication quasi permanente. En fait, ce que Disney fait très bien, finalement, parce que des personnages Disney, quoi que tu fasses, t'en vois un petit peu partout, tout le temps. C'est quelque chose qui se ramène à toi, qui pénètre un peu ton esprit.
Justement, j'allais parler de Ron Jeremy quand il s'était déguisé en Mario. Tu parlais de pénétration. Ça faisait, c'était des trucs. Enfin, il est déjà dans le.
Je parle de pénétration. Tu penses pas à Jacques Cheminade là pour le coup.
Non, franchement, mais ça serait.
Nintendo n'a pas souhaité qu'élargir sa cible. Quoi.
Ouais, voilà. Enfin. Ça fait partie. On sait que Mario est déjà dans le. tu me déconcentres. On sait que Mario est déjà de toute façon dans la culture populaire depuis longtemps, mine de rien.
Oui, mais. Surtout au travers des jeux. Là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment diversifier le support finalement. Que ça sorte de l'univers gaming.
Et surtout, une fois de plus, mais c'est toujours pareil, hein, quand t'as été très haut, c'est difficile de rester haut et de se maintenir et d'être encore plus haut, mais il y a quelques décennies. Le personnage de l'entertainment le plus connu, c'était Mario. Aujourd'hui, tu fais un sondage mondial, je pense qu'il est plus du tout premier, ni 2, ni 3, ni 4. Il a régressé chez les enfants.
Mais tu penses que ce serait qui ?
Bayonetta.
Bande de contrôle.
Jacques Cheminade.
L'entertainment, etc. Bah déjà, moi, pour moi, l'une des licences, aujourd'hui, la licence la plus forte de l'univers du jeu vidéo aujourd'hui, c'est Minecraft.
T'as pas un personnage emblématique.
Elle est pas incarnée.
Ah ouais, là c'est compliqué.
Mario, je pense, reste. Si tu demandes à un gosse aujourd'hui.
Mais pas forcément. Mais avant, la question n'était pas dans le jeu vidéo. Hein. C'était quel est ton personnage, machin. Donc c'est pour ça qu'il était en fight avec Mickey.
Ah oui.
Mais je pense que Mickey et Mario ont baissé.
Oui, bien sûr. Mais donc hors jeu vidéo,
dans
l'entertainment, licence,
dans le monde général.
Personnage.
De toute manière, l'air est de moins en moins aux mascottes. En fait. Et plus aux marques.
C'est vrai.
Apple aujourd'hui et à l'époque était moins puissant que Mario. Aujourd'hui, Apple, je peux te dire que chez les je parle des enfants, hein, là,
ouais,
je parle pas de machin. Un gamin aujourd'hui, je pense qu'il te dira plus vite en notoriété de marque, plus vite Apple, ouais, cool, que Mario, cool. C'est pas très bon ça.
Bon, maintenant on va peut-être un peu s'exciter.
Iwata l'avait compris d'ailleurs en disant que notre ennemi, c'est les smartphones, etc.
Bah justement, les smartphones, on va en parler avec l'arrivée de Miitomo, donc qui a commencé à faire son petit carton, hein, 1 million en quelques jours depuis l'arrivée au Japon. Après, ça sort le 31 mars en Europe et aux États-Unis. On arrive à plus de 3 millions. Mon enregistre, j'imagine qu'on a largement dépassé ses scores. Miitomo, bah nous, ça nous a plu. On a fait une petite vidéo tout à l'heure. Hein,
il est hyper mis
jours,
en avant
en
sur l'App Store,
tout à l'heure.
En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu.
Il est numéro 1.
Il est numéro 1.
Ouais,
number
en plus, ils ont fait des grandes bannières, etc. Découvrez Miitomo.
Donc ça fait partie des axes de développement de Nintendo, le téléphone portable. Vous pensez que ça peut vraiment marcher pour eux?
Alors,
leur association avec DNA,
j'aurais envie,
porter ses fruits.
Je suis désolé et je sais que dans les forums vous ne me raterez pas, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. En fait, je crois que les gens s'emballent un peu sur ces chiffres là de 1 million, 3 millions, etc. C'est genre, c'est phénoménal, c'est un succès, c'est machin et tout. Évidemment, c'est pas un échec. Évidemment, c'est un très bon démarrage. Mais plusieurs points de comparaison pour pouvoir avoir un peu une échelle des grandeurs. Déjà, il sera intéressant de voir dans un mois le taux de rétention de ces gens. Combien de ces personnes-là vont continuer à y jouer? C'est ça le plus important. Parce que les gens qui se sont inscrits sur Facebook, et surtout sur Facebook, la plupart, et Instagram et WhatsApp, ils utilisent Instagram, Facebook, etc. C'est ça l'important. C'est pas juste s'inscrire et avoir des membres. Et autre chose, 3 millions, 5 millions en
très
peu de temps,
actifs,
c'est super. Mais il y a combien de smartphones dans le monde d'iOS et d'Android? C'est tout petit quand même encore. C'est vraiment tout petit. Quand tu compares à 1,8 milliard d'abonnés Facebook, à 500 millions d'abonnés Instagram, alors oui, tu vas me dire, oui, mais en plus de temps et machin. Mais est-ce que tu penses vraiment que Miitomo va franchir la
Miitomo,
barre
Miitomo.
Oui, Miitomo va franchir la barre, par exemple, ne serait-ce que des 100 millions dans les 6 mois à venir? J'en doute très fortement. J'ai l'impression, pareil, toujours pareil, j'ai des amis, des connaissances qui sont des gamers, mais pas des machins. La plupart, quand même, les faire venir sur une appli réseaux sociaux, social, Nintendo et machin, ils s'en foutent, quoi. C'est bon, ils sont déjà saturés de réseaux sociaux, ils ont ce qu'ils veulent, bon, ça va, quoi.
Oui, mais ça sera la seule appli. Ils vont en faire d'autres après.
Ah,
enfin,
ça, je suis
des applis ou des jeux, mais
ce que je voulais en venir, c'était. C'est un bon point de départ, mine de rien.
Bien sûr, ça, évidemment. Ça, très bien.
je pense que tout le monde rêve en lançant sa première appli d'avoir 3 à 5 millions comme ça de téléchargements. Voilà, ils ont une force de frappe qui est incomparable. Mais on sait qu'ils bossent sur plein d'autres trucs. Ils ont annoncé, je crois, 5 jeux sur smartphone pour 2016. Donc il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont peut-être toucher un autre public.
Disait avant du souhait de Nintendo de sortir de ses consoles et d'aller
chercher les gens,
se rappeler au bon souvenir de tout le monde qui ne joue pas forcément sur Wii U, sur 3DS, etc. Et c'est précisément ça qui s'est passé, parce que moi, enfin, on a vu autour de nous tout un tas de gens s'inscrire comme nous, on les voyait popper, tiens, tu veux être ami avec machin, un truc. Dès le premier jour, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour dans la vidéo qu'on a faite sur Nintendo.
Je vais le lancer tout de suite pour voir si on peut avoir du son en même temps que tu parles. Vas-y, vas-y.
Il y a une flamme qui demande qu'à être ravivée dans le cœur de plein de gens.
Ça, c'est vrai.
Et tu sens que la simple arrivée de Miitomo a participé à faire quelques petites étincelles. Donc Nintendo, c'est une bonne stratégie si leur objectif c'est de faire ce genre de choses. Donc de percer sur les smartphones, de revenir sur les t-shirts des gens ou dans les des associations, comme tu disais, avec le prochain film de Disney, etc. Si ça c'est une stratégie, c'est pour moi une bonne stratégie, et c'est peut-être après les Amiibo.
Je vais aller voir
la dernière bonne stratégie mise en place par Nintendo.
Non, mais là, t'as complètement raison. Ça veut dire que là, ça réhabitue à la marque. Ils savent faire quand même des univers, on l'entend avec la petite musique, machin.
Je vais voir Julo,
c'est agréable, c'est mignon, etc. Au-delà même du contenu, à proprement parler, de Miitomo, que je trouve moi un petit peu sec pour l'instant, t'es dedans et t'es confronté à Nintendo, à son ambiance. Et c'est vrai que ça te.
Mon père a mis sa main dans un.
Quoi ?
Paquet cadeau m'a dit d'ouvrir ce que j'ai fait. Et j'ai reçu une pseudo-baffe. C'était plus pour l'image.
Je sais pas ce que tu veux dire. D'accord. Là-dessus, mais
c'est un journal intime.
Mais je vais mettre un cœur.
Mais non, mais la question c'était un cadeau que t'aurais pas voulu recevoir. D'accord. Et je racontais qu'à un Noël où j'avais fait une année scolaire désastreuse, mon père avait empaqueté sa main dans du papier cadeau et il m'a dit ouvre. Je savais à peu près ce qu'allait se passer. J'ai ouvert et il m'a mis une gentille baffe en me disant voilà.
D'accord, j'ai bien cœur.
Oui, j'ai eu d'autres cadeaux. D'accord. Mais il a tenu à me dire voilà. C'est Noël, on fait la trêve, mais sache que je suis pas bien content de ce que tu fais.
D'accord, on va écouter un autre pour la peine. Alors attention.
Tu veux savoir comment j'imagine la cérémonie de mariage idéale ? À la mienne. C'était trop bien.
C'est mignon, je vais curer aussi. Effectivement, on y était, donc on peut dire que c'était trop bien. Effectivement, on va arrêter. Je vais recevoir une question là dans 2 secondes, attention.
Quel type de produit cosmétique utilises-tu le plus ?
Oh là, je répondrai à cette question un autre jour.
La réponse est aucun.
Le white ice cream ?
Non, le fond de teint, évidemment. Donc on en parlera plus tard. Hop, voilà. Bref, Miitomo.
Pas de réponse.
Pas de réponse, voilà, c'est tout ce qu'on va rajouter.
Non, mais c'est clairement c'est une rigolo. Bonne initiative.
Voilà, après, comme on disait, on va pas refaire la vidéo qu'on a fait l'autre fois, mais il faut absolument qu'ils injectent très vite des nouvelles choses pour pas lasser les gens.
C'est pas gagné.
Parce que
hein.
C'est un peu lent et un peu.
Pour l'instant, c'est satisfaisant.
Ça tourne pas beaucoup.
Mais ils ont dit eux-mêmes qu'ils allaient prendre leur temps. Alors quand Nintendo te dit qu'il va prendre son temps, non, mais voilà, tu
t'imagines
à peu près.
T'imagines à peu près ce que ça va donner. On va prendre notre temps pour sortir les jeux. On attend toujours Zelda, évidemment.
Non, mais même sur les évolutions des logiciels qui supportent le système, si c'est les mêmes évolutions par exemple que le Mi Plaza sur 3DS, qu'est-ce qu'on va rigoler, putain. Enfin voilà, il s'est pas passé grand chose, quoi. Pour eux, le changer de couleur de fond, c'est genre on a apporté quelque chose. Ouais, on est en 2016, les mecs, on voudrait peut-être un petit peu plus.
Ah
quoi.
Oui, changer les thèmes sur la 3DS, voilà. Aussi, mais tu vois, pour eux, c'est révolutionnaire.
À les écouter, ils proposent vraiment quelque chose. Et à un moment donné, il y a un vrai décalage entre ce que toi t'es en droit entre guillemets d'attendre et la manière dont eux le perçoivent. Où t'as le droit d'être insatisfait parce que par rapport à toute la concurrence, à un moment donné, c'est famélique, quoi. Donc bon, Miitomo, ouais, j'ai pas beaucoup d'espoir sur un contenu pléthorique qui arriverait là dans les prochains mois.
Pas pléthorique, mais au moins des mini-jeux, parce qu'il y a un seul mini-jeu à l'intérieur.
Le lâcher de mi.
Le lâcher de mi sur un truc un peu comme un flipper là. C'est sympa, mais c'est non, en fait c'est pas sympa, c'est nul. Et il faut mettre des vrais petits mini-jeux à la con qui vont relancer l'intérêt et faire rejouer les gens.
Le petit Picross Zelda aussi que tu peux débloquer.
Que tu débloqueras quand t'auras suffisamment de pièces.
Tu joues sur 3DS.
Donc c'est
bon. Après tous les trucs dont on parlait.
Je parle de mini-jeux à l'intérieur des Miitomo.
Tous les trucs dont on parlait avec les réducs, les costumes, etc.
Je sais pas si vous avez joué à Tomodachi Life. Il se passe 1 milliard de fois plus de trucs rigolos dans Tomodachi Life que dans Miitomo.
Bah oui, parce que c'est un jeu complet.
T'as tes copains qui se marient, t'apprends que tu leur fais Julien faire des enfants, est amoureux de Poufy, etc.
Tu l'as appris dans ton mode Tomodachi Life, ça.
Ouais, tu peux. Il y a plein de trucs comme ça.
Parle pas de Benjamin comme ça.
Parle pas de Benou comme ça. Notre petit Benou. Bon, on va passer enfin au gros du truc, j'ai envie de dire. L'objet de toutes les attentions, celui qui va enfin nous faire peut-être recroire en Nintendo, c'est la Nintendo NX. Évidemment, messieurs, parce alors que moi, là, déjà, je vous en termes de rumeurs, en termes d'infos, ouais. on a ce qu'il faut. Là, on a des biscuits pour notre
première chose.
Chou.
Bien que ça a été super bien fait par le designer hein, dont on entendra bientôt parler.
On a entendu parler.
On a entendu parler.
Ça y est. Voilà. Ouais, voilà. Qui est venu ici même. Et si vous l'avez pas vu cette vidéo, on a reçu et on a interviewé les créateurs français du fake mondial de la manette.
Le deuxième fake mondial, celui qui a été.
Non, le premier, mon ami.
Ah ouais, c'est le premier. Bah ouais.
Le tout premier, ouais.
Bah
ouais.
Ah, d'accord.
Les initiateurs du
Cocorico.
Fake mondial.
Ah.
Qui nous a bien fait rire, quand même. Mm. Et donc, il nous explique un petit peu pourquoi, comment ça s'est passé et tout. Voilà.
Et donc, pour en revenir à ce que je disais, je suis très heureux que ça soit un fake. Parce que ça n'apportait rien. Rien du tout. À part le côté un petit peu gadget hyper techno, cet écran qui aurait été
incrusté, ouais.
Voilà, incrusté directement dans la manette, bord à bord, etc.
J'aimais bien.
Oui, non, c'était joli. Mais en fait, ça n'apportait rien.
Mais quelle utilité
par rapport à un gamepad,
tout à
quelle
fait.
Utilité, etc.
Encore
non,
moins ergonomique.
Moi, j'attends vraiment de Nintendo qu'ils nous épatent là. Qui nous épatent.
Bon, ils sont censés et nous épater parce que Nikkei a donné cette information là il y a quelques jours comme quoi. C'était 527 millions de dollars investis en recherche et développement.
Mais une fois de plus, il faut toujours avoir les ordres de grandeur, etc. Parce que sinon, tu sais, à quelqu'un qui est grand.
Non, mais ça représente une belle somme quand même.
Bah oui, mais c'est vachement inférieur à ce que investit ses concurrents, quoi.
Mais c'est sur le premier trimestre. Hein.
Oui, oui. Bah, la PS3,
ça se trouve,
c'était 3 milliards.
Oh la vache.
Excuse-moi, mais c'est wow. pas énorme. Hein. Bah non, okay, ça paraît
d'accord.
beaucoup, mais c'est pas fou.
C'est
en fait.
Un budget d'artisan.
Bah. C'est énorme, évidemment, à la hauteur de nous. Enfin, je veux dire, c'est 550 millions de vies de dépenses de nos piètres personnes. Mm. Mais enfin, c'est pas la folie non plus.
Oui, mais avec tout ce qu'on a reçu au niveau des. Enfin, tout ce qu'on a pu voir au niveau des brevets, au niveau des capacités de la console, il y a quand même de quoi commencer à imaginer que
ça
peut être bien.
C'est
merde.
Encore autre
chose. Non, mais parce qu'on est là pour se demander si
c'est bien. Pour dire que c'est bien,
voilà. Est-ce que c'est bien ? Bah, ça, on sait pas vraiment encore. Mais oui, il y a des choses intéressantes. À la fois, les brevets, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, si ça vous plaît pas, les gars, bah, c'est les brevets quand même.
Ce qui peut être pas mal. Il y a peut-être un twist qu'on n'a pas sur les brevets et qui va faire toute la différence. C'est là qu'on compte sur Nintendo.
Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de la Nintendo NX à part que ça se trouve ce sera.
Alors il y a de très fortes
une
chances.
Fusion.
Voilà, de très fortes chances pour que ce soit une console double, c'est-à-dire la rumeur la plus sérieuse, celle qui a l'air la plus crédible en tout cas jusqu'à maintenant et qui a été relayée par par des gens qui sont au courant des commandes
de
des commandes mondiales d'écran tactile et ce genre de choses. Apparemment. La sortie d'une console portable cette année qui serait que la première partie d'une console de salon qui serait la manette de la console de salon qui sortirait un an plus tard. Voilà, donc la manette qu'on va découvrir sera une console à part entière apparemment qui pourra se jouer sans console de salon et qui remplacera donc la 3DS qui sera la remplaçante de la 3DS mais qui sera aussi la manette de la NX.
Mais moi je pense vraiment qu'on sera pas très loin de ça. Peut-être pas sur la forme mais sur le... Déjà, bon, rappelez-vous, il y a le rédacteur en chef de Game Informer qui a eu visiblement accès à des informations un peu plus précises sur ce que sera la manette, qui visiblement sera aussi une console portable, qui sera donc le premier étage de la fusée NX. Et quand il a vu les fakes, il a fait « Je peux pas vous dire c'est ça parce que je l'ai jamais vu, mais de tout ce que je sais, c'est exactement ça. » C'est-à-dire répondre à cette question et à cette problématique qu'ont les smartphones aujourd'hui quand on veut jouer à des jeux un peu plus précis, c'est pas les boutons. Les boutons virtuels n'ont jamais été un problème. On tapotait un écran,
c'est les
sticks virtuels le problème.
Bah, et là, les boutons, ça peut être aussi un problème.
Bah non.
Bah, dans un jeu où tu dois regarder autre chose que ton pouce, voilà, et tu dois taper sur A ou B.
Ouais, si le bouton il est placé à un endroit.
Comment savoir où est placé ton pouce ? Faut que tu regardes ton pouce et que tu regardes l'écran.
Et surtout pour l'analogique.
Alors qu'avec un bouton qui sort d'une manette, t'as le doigt dessus, tu les regardes.
Ça, a priori, si ces informations sont bonnes. Et si on en croit aussi les brevets, tu peux déjà mettre une croix dessus.
Ouais, bah
les boutons sont morts, ils sont tactiles. Par contre, les sticks analogiques, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, c'est pas machin.
Ça,
donc,
oui.
Tu peux très bien. Et là, sur le brevet et la confirmation du rédacteur en chef de Game Informer et les fakes, mais bon, ça, les fakes, c'est des fakes. Moi, je trouvais que ça répondait très bien à cette interrogation et à cette problématique-là, c'est-à-dire un contrôle précis, des touches virtuelles qui donc peuvent être mappées. Exactement selon les désirs des développeurs en fonction des jeux. Tu veux deux boutons, t'en as deux. T'en veux trois, t'en as trois. T'en veux un seul, t'en as un seul. Tu veux qu'il soit gros pour être facile, il est gros. Tu veux qu'il soit au centre de l'écran, il est au centre. Tu veux qu'il soit machin, enfin tu fais ce que tu veux.
Quitte à changer en cours de jeu et à proposer différentes choses.
Après, si c'est haptique, par exemple, ça peut régler le problème. sentir le bouton et véritablement appuyer sur l'écran pour l'enfoncer,
par exemple,
à ce moment-là, ça règle le problème.
Voilà. Ouais.
Oui, est-ce que tu retrouves une sensation
Parce que
tu as
la sensation sous le pouce, t'as pas besoin de regarder ton pouce. Et en même temps, les mecs, effectivement, les développeurs sont libres de faire toutes les interfaces qu'ils veulent. Et là, c'est génial.
Après, le souci, c'est qu'il faut que tu arrives à communiquer et à la vendre ta console en deux parties. Parce que je vous vends la manette qui coûte, je sais pas, 200€ cette année et la console l'année prochaine.
Mais parce que
c'est compliqué, il faut réussir à amener et à justifier la chose en fait. Donc ils ont du bout. Si en tout cas ça se vérifie, mais on est d'accord, c'est la rumeur qui est la plus sérieuse. C'est ça nécessite de se creuser quand même un petit peu la tête pour l'expliquer aux gens.
S'ils font ça, pour moi, la manette sera un accessoire. C'est-à-dire tu seras pas obligé de l'avoir. C'est-à-dire que quand tu joueras à la NX, qu'on va dire console de salon, sur ta manette, t'auras une fois de plus pas beaucoup plus que des bonus, genre une map, etc. Et si, et je peux pas imaginer qu'ils vendent une console sans manette à l'intérieur, mais ils vont pas vendre ça, sinon ça va être trop cher. En revanche, l'idée de la NX visiblement et des infos qu'on a, c'est vraiment enfin de pouvoir continuer le jeu, mais le même jeu
ailleurs.
Et là, bah, le fait que ce soit un écran en fait, bah voilà, c'est gagné quoi. Mais t'as le vrai jeu, c'est-à-dire que tu joues à Zelda chez toi sur ton salon avec cette petite manette sur lequel finalement il n'y a pas beaucoup de plus-value, etc. Mais sauf qu'une fois que t'éteins ta console, enfin probablement tu l'éteindras probablement tu vas dans le métro, dans le bus, dans je sais pas quoi, tu continues à jouer.
Ça pourra pas être le même jeu à moins que dans la manette t'es le même hardware,
un processeur.
Voilà.
Ouais.
Donc ça sera probablement des versions.
Utilisons
ABC des mêmes jeux.
Ou utilisons carrément des
termes. Vu que tu dois pouvoir l'emmener loin de chez toi sans le wifi.
Mais maintenant,
utilisons les termes qui fâchent. Nintendo pourrait-il se mettre au cloud?
Bah,
ils n'auraient pas le choix.
Oui, mais alors, voilà.
S'ils veulent faire ça, il n'y a pas d'autre solution.
Sachant qu'ils sont
oui, mais moi,
c'est
à mon avis.
C'est ça que je veux savoir, moi.
T'es connecté
Android,
comment en dehors? Dans le
il n'y a pas de connexion. Tu télécharges le jeu à l'intérieur.
Oui, donc il faut que le hardware soit aussi puissant que.
Mais aujourd'hui, regarde un iPhone 7 ou un Samsung Galaxy S7. Techniquement, ça va. La résolution sera moins forte sur ton écran.
Mais c'est pas grave, il est plus petit.
Elle est plus petit. Voilà, donc tu peux faire des petits compromis technologiques aussi. Et aujourd'hui, les puces, quand même, le truc. Par contre, ça, deux problématiques, c'est la chauffe et l'autonomie.
L'autonomie, bon, ouais,
ça,
surtout.
Ça, c'est encore d'autres idées. Mais...
Après, ils peuvent arriver à un moment donné. Enfin, en termes de temporalité, c'est pas mal. Ce qu'on est. On va pas dire au milieu, mais presque au milieu de cette génération. Ça fait 3 ans qu'on joue au PS4, Xbox One, etc. On sait maintenant ce que ça va donner. On voit quel type de jeux peuvent être développés dessus. Et comme la Wii U n'a pas super bien fonctionné, il y a une aspiration, je pense, à trouver autre chose, à essayer quelque chose de différent. Parce que ce soit chez Sony, chez Microsoft, t'as des machines qui sont maintenant relativement les mêmes depuis 2 générations, qui proposent pas de vrais partis pris qui les différencient véritablement. Donc il y a encore une place pour une vraie seconde voie en fait sur le marché. Donc il peut y avoir une demande, à condition que ce soit bien fait, expliqué, etc. Mais ils peuvent profiter de ce milieu de génération pour venir se glisser, rattraper leur retard au niveau hardware.
Et a priori, d'après les infos qu'on a, vont pas de toute manière aller beaucoup plus loin que ça. Il y aura certains segments technologiques sur lesquels ils seront un peu meilleurs que la PS4
que l'existant, actuelle.
D'autres, ils seront similaires. Donc ça va pas être un monstre de technologie. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs comment ils vont se situer par rapport au PS4K et Xbox, ce que vous voulez, nouvelles qui arriveront
Xbox
là,
2.
Très clairement dans les mois à venir. C'est marrant, hein, on va avoir un nouveau cycle de consoles. On va avoir 3 nouvelles consoles
En plein milieu.
Ouais. Mais un peu, ça quand même. Ce qui me gêne, c'est que c'est un peu le même argument qu'avait la Wii U. C'est-à-dire que la Wii U.
Mais qu'il l'a pas servi.
Et oui, parce
qu'il l'a pas fait en fait.
Quand la Wii U est arrivée, c'est-à-dire, ah bah voilà les gars, vous nous disiez que la Wii, elle était pas en HD. Souvenez-vous, elle était pas en HD. elle était pas en HD, elle était pas assez puissante pour avoir les mêmes jeux que sur les autres consoles. Donc voilà les gars, ça y est, on sort avant tout le monde.
Mais
on a la Wii U. Vous pouvez jouer à Call of Duty, vous pouvez jouer à Assassin's Creed. C'est les mêmes, etc.
Ça n'a pas duré parce que 2012. Donc
voilà. Et donc voilà, là c'était 1 an d'avance. Donc là maintenant, elle aura quoi? 3 ans d'avance sur la PS5 et sur 2 ans.
Bah non, elle aura pas 3 ans d'avance. Si elle est à peu près au même niveau en termes de hardware,
elle va se faire rebananer par la
PS4.
Elle
va se faire rebananer derrière. Sauf qu'au lieu d'avoir 1 an, t'auras 3 ans.
Mais ça, c'est des suppositions. Mais pourquoi est-ce que Nintendo se remettrait pas un petit peu à la quête à la puissance?
Parce que c'est pas les infos qu'on a.
Ah ouais.
Et même en termes, si tu veux choper, un des enjeux qu'ils vont avoir, c'est de faire revenir une fois de plus les développeurs tiers.
Bah, il y a Square Enix déjà
chez eux.
Qui
donc,
est sûr
ça veut
de
dire
venir
qu'en
avec
termes d'architecture, il faut que tu proposes une conversion qui soit quand même assez simple.
Ils sont en x86,
pas trop coûteuse, etc. Donc. T'es obligé de donner un outil qui va te permettre de développer tes jeux sur PC, PS4, Xbox One, et en parallèle de faire des versions NX qui soient pas trop contraignantes, etc. On sait que ça a un coût de faire différentes versions, et il y a plein de studios qui sortent pas de jeux sur Wii U justement à cause de ça. Donc là, il y a une carte à jouer aussi, mais ce qui fait que, en termes de puissance, en termes de positionnement, ça veut dire qu'ils sont peut-être un petit peu obligés de se calquer sur la concurrence, et ce serait une première.
De ce que je sais, c'est qu'apparemment l'écosystème de développement qui a été vraiment complexe sur Wii U, mal branlé et qui a fait fuir aussi des éditeurs tiers, ça leur coûtait trop cher de faire les portages, donc ils ont fait en plus le parc installé il est pété, on se casse,
on vendra rien, ouais.
Là c'est pas le cas sur la NX apparemment, c'est parti pour être très ouvert, très accueillant, très Android, et je pense clairement que le fait d'aller eux-mêmes Nintendo sur les smartphones, je pense qu'ils vont vouloir aller draguer tous les jeux smartphones et machin et leur dire on vous rajoute un store aussi chez nous, venez 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 venez, et en plus on aura nos jeux, donc il va y avoir un produit d'appel, vous allez faire que faire des ventes en plus, etc. Je pense que là-dessus ils vont énormément s'ouvrir.
Oui, mais il faut faire gaffe parce que rappelez-vous au début de la Wii U, il y a plein de développeurs qui prenaient le micro pour dire justement c'est génial, vous avez, on peut pas trop vous parler de ce que c'est, mais ça nous donne plein d'idées, on va s'éclater là-dessus, etc. Et bon, on sait ce que ça a donné finalement en termes de développement tiers, quoi. Donc mesurons un petit peu l'enthousiasme qu'on peut avoir par rapport à ça.
Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour Nintendo pour regagner la confiance des joueurs en masse vraiment là?
S'ouvrir un peu, décadenasser,
ouais, l'ouverture, enfin,
à arrêter d'obliger les joueurs à en passer par certains trucs qui sont devenus hyper relous. Moi j'ai quelques exemples en tête, je sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous avez lancé Wii Sport Resort, où il y a cette vidéo qui vous explique pendant 5 minutes comment on connecte l'accessoire, et tu peux pas la zapper cette vidéo, t'es obligé de la regarder et t'as envie de mourir parce que tu le branches et tu joues, ça prend 10 secondes et ils te prennent 5 minutes pour te l'expliquer. On parlait de Mario Maker qui est un peu enfermé aussi. Splatoon c'est pareil, moi j'ai fini par lâcher parce que c'était tellement bridé au début par rapport aux armes, etc. Enfin, je l'ai acheté au lancement.
Le déblocage du contenu.
Le fait de débloquer, voilà, le contenu très progressivement, ça m'a vraiment frustré au début parce que il t'oblige, en fait, c'est pas à farmer, mais à commencer tout petit, alors que tu pourrais déjà t'amuser avec des armes un peu plus conséquentes, avec des gameplays un peu différents, etc. Donc, je pense que c'est une philosophie sur laquelle il faudrait qu'ils lâchent un peu du lest, en fait. Qu'ils arrêtent de vouloir tout maîtriser.
Là, je trouve que tu pinailles sur des trucs, je veux dire, pour moi, il y a quand même autre chose à faire. On en parlait tout à l'heure, c'est renouveler leur licence, en sortir de nouvelles. Sortir des sentiers battus et avoir quand même une putain d'idée de génie pour cette Nintendo NX, au-delà de juste t'emmène ton jeu sur ta console
et refaire venir les éditeurs tiers.
Évidemment, tiers, ça c'est une condition,
quand
mais
même,
genre, sine qua non.
Pas, nous on est des passionnés, etc. On est prêt à mettre une part de nos budgets respectifs assez importante dans le jeu vidéo. C'est pas le cas de tout le monde, en tout cas, c'est pas ça qui fait que ta console elle vend, elle est pérenne, etc. Et donc, la plupart des gens ils achètent une console. Bon, bah, pour la plupart des gens aujourd'hui, Nintendo peut être séduisant, mais n'ayant pas FIFA, n'ayant pas Call of Duty, n'ayant pas tous les jeux Rockstar, donc le futur Red Dead, le futur GTA et compagnie, égale, c'est mort, je la prendrai pas. Si demain, il y a le meilleur de Nintendo et tous les autres jeux, ah, là, on peut se poser la question quand même, surtout s'ils ont une petite idée différenciante, etc. Et là, je pense que s'ils arrivent à faire ça,
et à s'ouvrir, parce que s'ouvrir, ça par contre c'est hyper important, et ils le font avec Mitomo. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, que ce qui a motivé ce podcast à la base, c'est ces récents bons coups de Nintendo où on sent qu'il y a une espèce de flamme qui se ravive un petit peu, quoi.
Une prise de conscience.
Voilà, et une prise de conscience qui avait déjà été amorcée par Iwata et qui, sous la nouvelle présidence maintenant, va a priori aller dans la bonne direction. Donc, honnêtement, on a beau avoir un petit peu cassé du sucre sur le dos de la Wii U depuis tout à l'heure, mais c'est des fans de Nintendo à la base qui disent ça. Enfin, on en est tous.
Tout à fait.
Tout gamer est à la base aussi un fan de Nintendo, surtout quand on a 30 ans comme
notre âge. Le gamer doit beaucoup à Nintendo de toute manière.
Donc, on a tous envie de ça. Et il faut absolument que Nintendo mette ses petits plats dans les grands pour satisfaire tout le monde. Et c'est quand même une espèce de direction qui semble être en train de prendre.
Ils ont été à l'origine de tellement de coups de génie par le passé que t'as envie que ça se reproduise, t'as envie que ça perdure et que voilà, qu'ils trouvent de nouvelles idées, qui nous émerveillent avec des nouveaux jeux, de la trempe d'un Mario 64, de trucs révolutionnaires comme ça. Ouais. Enfin, ils ont des choses à apporter, mais avant, ils ont pu être pertinents depuis un moment quand même.
Il y a quelques temps, et c'est pas si loin que ça, quand les gens disaient jeux vidéo, ils disaient Nintendo. Parfois, ils confondaient même. Maintenant, objectivement, quand à la télé et tout, les gens, même dans le langage du foot, maintenant tu dis jouer à la PlayStation, même si c'est pas à la PlayStation qui joue. Mais donc il y a eu ce switch là, mais Nintendo est à mon sens a suffisamment d'intelligence au sein de ses équipes, de génie créatif, de possibilités, de catalogue, de stars en termes de personnages, etc., et de fans extraordinairement fidèles pour revenir et faire quelque chose de tonitruant. En revanche, ça va demander des efforts et une volonté de différence qui n'ont plus depuis maintenant au moins 5 ans. Quoi.
Et un timing et une mise en scène aussi. Il va falloir plancher sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est l'E3 de cette année ou jamais pour Nintendo ?
Qui nous épate en tout cas à cette E3-là pour faire redémarrer une espèce de machine. Quoi. Et s'il nous épate avec la NX, ça sera un très bon point.
Apparemment, c'est possible que ce soit avant le 3.
Ah, ah ouais. Tu as des tuyaux, toi.
Il a un petit doigt. Ouais.
Bon, en Nintendo Direct, j'avais peur.
Hein. Pas plus que tout un chacun qui écoute un peu tout ce qu'il y a.
Ils ont tout intérêt à le faire parce qu'en face, t'as quoi ? Bon, enfin, tout le monde va mettre l'accent sur la réalité virtuelle. Ça y est, ça sort, les casques sont disponibles, etc. Mais en termes de machine, bon, si, peut-être que Sony va contrecarrer avec une PS4K, d'accord, mais c'est une version évolutive d'une machine existante. Donc, ils ont un vrai coup de poker à jouer. Mais on sait que c'est pas suffisant. Il y a des salons où ils nous ont déçus alors qu'on se disait putain les mecs il y a plus qu'eux, allez-y venez défoncez tout, et ils ont commis quand même pas mal d'erreurs par le passé, que ce soit en termes de communication, que ce soit dans leur hardware, les mini disques de la GameCube, les cartouches de la S64, etc. Ils peuvent aussi faire de grosses conneries et s'y tenir, donc ça c'est dangereux. Mais avec justement ce renouvellement du staff, que ce soit la direction ou dans les game designers principaux, etc., on peut espérer qu'il va y avoir un vent nouveau qui va souffler chez eux et qui va permettre de belles choses.
Tu parles de la PS4K. Est-ce que donc le principe c'est que la Nintendo NX s'aligne sur l'actuelle PS4 et Xbox One. Mais quand tu auras la PS4K derrière et que à ce moment-là peut-être on aura le Call of Duty aussi sur NX, mais que ça sera.
Mais tu sais, je pense que la PS4K,
la version
vraiment,
downgradée,
c'est une version intermédiaire comme l'est un iPhone 6S par rapport à un 6, etc. C'est les jeux tourneront les mêmes toujours sur PS4 et c'est ça le maître étalon.
Mais oui, d'accord.
Il y aura quelques petits bonus et tout le monde passera pas à la PS4K.
Bah, on l'a vu chez Nintendo avec la New 3DS par exemple.
Voilà, c'est plus ça.
Sortie de Xenoblade.
Les DVD, les films en 4K et apporter quelques petits bonus pour les gamers et la réalité virtuelle. Surtout.
Bah justement, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle va arranger sur la réalité virtuelle ? Elle va rendre les jeux plus beaux, ouais.
Bah, elle va surtout permettre
parce que c'est...
qu'ils soient moins moches. En fait, qu'il soit plus qualité PS4 actuelle.
Parce que c'est encore,
que
une, fois
PS3
le problème,
actuelle.
C'est encore une fois le problème des deux écrans, quoi. Ouais. Ouais. Qui divise la.
Parce que, a priori,
la puissance.
La PS4K, elle va être deux fois plus puissante que l'actuelle, à peu près.
Enfin, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, faut espérer que ça soit pas, enfin, qu'ils ne refassent pas l'avance d'un an qu'a eu la Wii U, quoi. Avec très peu d'idées autres que le deuxième écran, ou encore la possibilité d'emmener son jeu sur le petit écran. Enfin. Il faut qu'il y ait quand même un truc en plus, quoi. Il faut qu'il nous épate. S'il nous épate pas, je pense que on risque d'être extrêmement déçu.
Et si on est extrêmement déçu,
on revend nos actions.
Et si on revend nos actions,
on refait un podcast.
Est-ce que vous imaginez qu'ils reconnaissent une embellie comme époque Wii, ou est-ce que l'histoire continue et donc, bah, quand t'as fait 12 millions de ventes,
moins
25%.
Moi, je serais très rassuré.
Que t'es quand même proche de la fin, quoi. Après.
Je serais très rassuré de les retrouver sur les idées et qu'ils inversent cette tendance. Au moins qu'ils l'inversent, quoi.
Sur une génération, ouais, que ça reparte à la hausse, véritablement.
Je vais finir sur
comme
cette question.
Comme l'inversion de la courbe du chômage, là. Tu sais, le.
Putain, compare pas à ça, parce que c'est chaud, quand même, sinon.
Je vais vous poser la dernière question de ce podcast. Du coup, est-ce que vous croyez, je vais commencer par toi, Julien, est-ce que vous croyez vraiment à ce retour de Nintendo, ce grand retour de Nintendo cette année ?
Écoutez, bonjour, gameblogueur, gameblogueuse. J'aime Nintendo, vraiment. J'ai été un Nintendophile convaincu.
Je vais être obligé de faire comme Bourdin, quoi. Je vais te dire, mais vous répondez oui ou non ?
Bah, t'inquiète.
Les Français veulent savoir.
Dites-moi les yeux dans les yeux.
C'est important aussi de connaître les gens pour mieux comprendre ce qu'ils vous disent. J'ai grandi avec Nintendo, j'ai aimé Nintendo, j'ai passé, je pense, à ce jour, peut-être plus d'heures dans ma vie à jouer à des jeux Nintendo qu'aux jeux exclusifs des autres consoliers. Mais néanmoins, Nintendo m'a profondément déçu. Profondément, je ne suis aujourd'hui plus un adepte à cause de la Wii U, alors que j'ai passé de très très bons moments. J'ai été l'un de ceux qui a défendu la Wii pendant très longtemps. Bon, les deux dernières années, ça devenait impossible. Mais pendant très longtemps, j'ai aimé les jeux, j'ai passé beaucoup de temps sur la Wii. Ce n'est absolument pas le cas avec la Wii U, je le confesse. Il y a certes eu des bons jeux, mais pour moi, ils n'ont pas été assez grands pour que je leur accorde suffisamment de mon temps, très franchement. D'autant qu'à côté, j'ai vécu tant d'aventures, tant d'histoires, tant de nouveautés, que ce soit sur smartphone, sur tablette, sur PS4, sur Xbox One, enfin, vraiment. Donc, Nintendo, j'ai foi en vous. Nintendo, je suis persuadé que vous avez tout pour réussir, mais franchement, si vous ne voulez pas qu'un joueur comme moi, qui est un joueur historique de votre marque, commence à mettre les voiles et parte loin, presque trop loin, c'est maintenant qu'il faut se réveiller.
Et Donc t'y crois ou t'y crois pas?
Ah merci.
En tout cas j'ai envie d'y croire.
Bon, Thomas.
Bah, moi j'ai envie d'y croire aussi. Profondément, je sais qu'ils ont des idées, ils ont des concepts phénoménaux, mais il y a tellement de choses à revoir chez eux que ça me paraît compliqué qu'une aussi grosse machine, entre guillemets, lève tous ces verrous-là. Mmh. C'est quand même un paquebot, c'est géré à la japonaise, de main de maître, hiérarchiquement, etc. La possibilité, elle existe. Ils ont des super créatifs chez eux, ils nous l'ont prouvé tellement de fois par le passé, mais ça nécessite presque une adaptation au monde moderne, de leur part, en fait. Il faut à un moment donné qu'ils se débarrassent peut-être de vieilles habitudes, de vieilles manières de faire, pour regagner un peu de leur superbe et reconquérir un public. Moi, je suis comme toi, Julien, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression de m'éloigner, de venir à de temps en temps, ah oui, un ou deux jeux qui sortent, bon, c'est chouette, sauf que c'est vraiment une toute petite parenthèse au milieu de plein de trucs.
Plein de différences.
Plein de trucs, je vais pas dire que tout est phénoménal à côté, mais voilà, ils sont vraiment en retrait depuis un petit moment. Je ne sais pas si j'y crois, mais je le souhaite.
Tu souhaites y croire, t'as envie d'y croire.
Voilà.
Très bien.
L'envie d'avoir envie.
Voilà.
Merci.
Julo.
Je dirais que je suis à la fois optimiste, mm-hmm. parce que...
C'est ta nature, déjà, pour commencer.
Oui, et puis en plus, ils sont tellement ratés avec la Wii U que j'ose espérer qu'on peut pas se rater plus.
Comme
surtout,
on dit, une grande équipe, une grande équipe sont là, ne perd jamais deux fois de suite.
Voilà. Donc, oui, je suis optimiste et j'y crois, mm-hmm. mais je suis un peu fébrile quand même. Et ce qui me rend fébrile, c'est la peur de voir Nintendo nous annoncer un truc qui m'emballe pas totalement. J'ai envie d'être emballé, quoi. Et j'ai envie d'y croire et j'y crois. Mais il y a une petite fébrilité quand même. Voilà.
Shenmue HD exclusif à la Nintendo NX, par exemple.
Voilà.
C'est quelque chose qui
ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas.
Je sais que ça n'arrivera pas.
Ah bon, mais comment tu le sais?
Bah parce que
tu s'entretiens tous les jours avec Yu Suzuki au téléphone.
Non, mais le Shenmue 3, c'est réglé. C'est une exclu PS4 PC et ça le restera.
Bon, très bien. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire. Durant
toi, tu dis,
ce...
toi, tu dis pas. Toi.
Ah, moi, pourquoi je dirais toi, quoi que ce soit t'as... Je reste neutre,
t'as un
monsieur.
Pas, quoi.
Exactement. Je reste neutre.
Par contre, tu m'aurais dit F0, oui.
Oui, mais
putain,
bon.
F-Zero.
Bah, moi, j'ai pas fait de. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai pas vu de F-Zero. J'ai quelque chose à vous dire. Le jeu de ma vie. J'ai vu Shenmue pour toi.
Ah oui. Oui.
Donc, s'il te plaît, un peu de dignité. Bon, tu veux pas que je fasse le passe-plat trop longtemps. Ok. Bah, moi, j'y crois à mort. J'imagine que pendant le 3, il va y avoir une annonce. Enfin, non. J'imagine que Nintendo, les gens de Nintendo France vont venir vers toi, vont faire. Ouais, t'inquiète, il va y avoir quelque chose, et que ça va être l'annonce de. Cranky, spécialement développé sur NX, j'y crois à mort. En fait, je n'ai aucune idée de ce que j'attends concernant cette machine. J'ai envie d'y croire comme Thomas, mais je suis un peu Nintendo sceptique depuis un moment aussi.
T'sais, j'ai pas envie que ça devienne une vieille gloire, que tu respectes, etc. Mais avec qui tu l'assois dans un petit coin, etc. Tu
mais qui a perdu toute
son besoin,
aura.
T'as besoin de quelque chose, tu veux un petit verre et tout. Et puis au bout de 10 minutes, tu rejoins la fête avec tout le monde et tu passes un bon moment.
Ça peut être
et
Marcel Desailly, hein. Marcel Desailly qui fait des vines maintenant, aujourd'hui, qui fait avec son rire génial au début. Mmh. Ça peut être ça, ça peut être le retour de Nintendo, genre, ouais, bon, pendant un moment, ça s'est mal passé, puis maintenant, hop, c'est une nouvelle superstar du net, tu vois. Mais bon, faudra voir vraiment.
Marcel Desailly, donc.
Ouais, Marcel Desailly, ouais.
La nouvelle star du net.
Marcel Desailly, mon vieux.
Net, ouais.
Je te promets, Marcel Desailly, là, il traîne de comme t'as jamais vu.
Ah, putain.
Non, mais d'ici la diffusion de ce podcast,
ça
sera complètement cassé la gueule.
Tu peux télécharger son rire pour l'avoir en sonnerie de téléphone.
Ah bah alors tout va bien.
C'est véridique.
C'est la marque.
C'est un truc qui va durer pendant des années et des années. On le sait aujourd'hui.
Marcel Desailly,
en 2016, voilà, c'est le genre de truc qui dure.
Vous chez vous, vous savez, pour Marcel Desailly, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en dessous de ce podcast. Messieurs, vous le savez, chaque semaine, on ne parle pas que de jeux vidéo. Hein. Il est aussi temps de passer au hors-jeu hebdomadaire. On va commencer eh bien, avec ma gueule, pour changer. Tiens,
t'es comme ça, toi.
Ouais.
Tout en politesse, voilà.
Exactement, tout
en
classe.
En tout cas, ça fait plaisir.
Ouais. Bonjour, je prends la dernière bière dans le frigo. Pas bonjour, pas merci. Bref, je vais parler d'un escape game pour changer. J'en suis à mon troisième. J'ai été faire un escape game qui se trouve... Pour une fois, rive gauche à Paris, parce que tout le reste, hein, c'est plutôt du côté de Bastille, du 11e, etc. Donc ça commence à être un peu pénible, toutes ces histoires. Et j'en ai enfin trouvé un dans le 15e arrondissement. 34 rue des Bergers à Paris, ça s'appelle Tempête sous un crâne. Il y a deux salles qui sont proposées. Une où on doit s'échapper d'un bateau qui est en train de couler. Donc c'est pas très lol hein, comme truc, mais bon.
Il y a l'eau qui monte et tout
Je ne sais pas. Je n'ai pas fait celle-là, pour tout avouer.
Il s'est échappé avant.
Est-ce qu'il y a des musiciens qui continuent continue à jouer sur le pont et tout.
Est-ce qu'il y a Leonardo DiCaprio sur la banquise? Non, je ne sais pas, je n'ai pas fait cette salle-là, j'en ai fait une autre où le but c'était avant une heure, donc puisque c'est comme dans tous les escape games, hein, vous avez une heure pour trouver tous les indices d'une pièce qui vont vous permettre d'ouvrir la dernière porte et de vous en échapper. Et ben moi la mienne c'était il faut se dépêcher de trouver la fiole d'élixir de vie éternelle d'un vampire pour avant qu'il revienne, parce qu'il s'est cassé évidemment, hein, pendant ce temps-là il est parti faire sa vie.
Il avait des cassettes à rendre.
Exactement, il avait des cassettes à rendre. Et donc voilà, j'ai fait celui-ci qui était très bon. Alors faut savoir que normalement ça se joue à 3, mais aujourd'hui dans la plupart des escape games ils tolèrent, vous payez pour 3 personnes mais vous pouvez jouer à 2. Donc évidemment on y est encore une fois allé avec mon épouse, on a réussi l'épreuve, c'était très bien fait encore une fois, je vous en dis pas trop, mais il y a des petites énigmes pas très évidentes encore une fois, qui une fois qu'on trouve on fait putain mais c'est génial, il fallait y penser comme d'habitude. Et puis ils ont mis une petite ambiance un peu sympa.
Est-ce que le plafond on voit pas trop que c'est...
Non, alors non. Là, au niveau
parce que des... moi ça me bloque à chaque fois.
Au niveau de la déco c'est plutôt du sol au plafond, c'est plutôt bien rendu, ambiance bureau de vampire avec un peu de crypte aussi, des rires de vampires qui se baladent, des espèces de portes qui grincent au loin. Alors eux ils communiquent pas avec un interphone comme ça peut l'être dans d'autres escape games quand par exemple t'es un peu perdu, on te fait oui bah attendez hop oui qu'est-ce qui se passe, allô, ah d'accord il faut que je fasse ça. Si vous avez des petits soucis, en fait c'est un écran sur lequel ils écrivent, ce qui permet justement de pas trop sortir du jeu. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai trouvé ça très très sympa. Maintenant je vais en essayer d'autres, hein, évidemment.
C'est le meilleur que t'aies fait ou pas celui-là?
Non, je dirais que c'est le deuxième dont je vous avais parlé, le Fox in a Box.
Faudrait faire des tests d'escape game.
Ouais, je blague. On en a un juste à côté. Hein.
Faut que t'en parles sans en parler en fait, ouais. Parce que tu peux pas ruiner la surprise, oui, du coup. Ouais.
Mais ambiance.
Bah ouais, mais moi je demande que ça, que vous veniez avec moi.
Niveau de difficulté, ouais.
Bah voilà, celui que j'ai fait, le deuxième dont je vous avais parlé, le Fox in a Box à la banque, qui était le plus difficile et qu'on n'a pas réussi.
Mais c'était mieux aussi, c'est pas
mais pour moi
plus
c'était
difficile.
Mieux, ouais. Pour moi c'était celui qui m'a le plus stimulé.
Il est où celui-là, Fox in a Box?
Il est dans le 12e arrondissement, entre Bercy et Bastille.
Et le meilleur de tous ceux que t'es fait en termes, parce que moi je suis comme Julien, je suis ouais. Hyper à cheval sur la présentation, quoi, le décor, etc.
Oh, les trois se valaient, mais je dirais que le encore une fois le Fox in a Box, parce qu'on était plongé dans le noir complet pendant tout le truc.
Ah, c'est pratique comme décor.
Non mais avec des petites torches évidemment.
C'était celui-là. T'es sans...
t'es censé être un voleur, donc forcément on te fait respecter au moins ce truc là comme quoi c'est la nuit, etc. Non, celui-là était particulièrement réussi de ce côté là je trouve. Mais bref, voilà, ça, c'est donc 34 rue des Bergers dans le 15e à Paris, et pas loin de Ballard, et c'est franchement super bien fait.
Voilà, cool,
c'est beau.
On va passer maintenant au deuxième hors-jeu de la semaine, Thomas.
Bonjour.
Thomas, tu es allé voir un concert.
Je suis allé voir un concert, comme très souvent, j'adore la musique.
D'un groupe que tu aimais beaucoup dans les années 90.
Voilà,
et que
un groupe que j'aimais bien quand j'étais jeune. Et c'est terrible, j'ai déjà l'âge de voir des reformations en fait, de gloire passée. Là, en l'occurrence, c'est un groupe qui s'appelle At The Drive-In, mm-hmm. qui est un groupe très influent de la fin des années 90, qui donne plutôt dans le rock post-hardcore, donc ouais. assez péchu, assez gueulard, et qui s'est reformé en 2012 pour une tournée en Angleterre, et qui s'est reformé là en 2016. Et ils sont passés à Paris au mois de mars, mm-hmm. et je suis donc allé les voir, et c'était très sympa.
À quelle scène?
C'était au Trianon, que je découvrais pour la première fois du coup. C'était énergique.
On a un extrait vidéo ou...
bah, oui, on a des extraits. T'inquiète pas, on a toujours des extraits.
Et donc bah, j'ai passé un très bon moment, c'était mm-hmm. sympa. C'est l'occasion de reparler de ce groupe qui a eu une influence quand même assez énorme, et qui a un jeu de scène, vous pouvez le voir si vous avez la vidéo, qui est quand même incroyable.
Bah, et surtout une coupe de cheveux encore plus incroyable. Oui. Moi j'aimerais bien avoir les cheveux. C'est le bassiste?
C'est le guitariste là, qui a eu une carrière solo fantastique derrière, qui s'appelle Omar Rodriguez Lopez. Uh-huh. Allez voir sur Wikipédia, le mec sort plusieurs albums par an depuis des années et des années.
Il est très agile de ses jambes.
En tout cas, il gigote.
En plus de ses mains.
Il gigote bien.
Et alors, c'était très sympa, bien qu'un peu court, et je me suis fait la même réflexion qu'en allant voir les Red Hot Chili Peppers il y a quelques années. C'était quand même bien quand ils prenaient de la drogue.
Voilà. Ah oui, les Red Hot. Les Red Hot, on a été les voir nous, à l'époque de By the Way, il me semble. On a été les voir deux fois. Hein. On a été les voir à l'époque de Californication, il me semble, et à l'époque de. Non, pas de Californication, pardon.
Tu étais là avec moi?
Ouais, on a été les voir pour.
Je t'avais pas planté là sur ce coup?
Pour Stadium Arcadium et pour By the Way, il me semble, on a été les voir ensemble.
D'accord.
Mais,
et j'irai les revoir avec grand plaisir. J'adore
aussi.
Ce groupe.
Parfait.
Moi aussi, toujours. Mais bon, scéniquement.
Scéniquement.
Ils ont tous
oui,
un petit peu
voilà, ils ont arrêté l'héros et à un moment.
Voilà,
c'est bien aussi d'arrêter l'héros.
je dis pas le contraire, hein, mais pour le public.
Je te vois bien. Oui, je veux dépanaliser l'héroïne. Écoutez, c'est beaucoup mieux à faire.
Non, non, mais je veux ouais. des jeux de scène explosifs. Voilà. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir. Alors, c'est un style un peu particulier, ça peut être clivant, mais ils ont.
Donc, c'est At
the
Drive-In.
At the Drive-In, tout à fait.
D'accord, très bien.
Ça sera pas dans les BO de jeux Nintendo, quoi.
Il y a peu de chance. Ou alors, ce sera un contre-pied. Voilà, c'est ça.
Ou dans un Crazy Taxi, peut-être, à ce moment-là.
Oh,
mais c'est Sega, merde, qu'est-ce que je dis.
En parlant de Crazy Taxi, oui. Hier.
Ouais.
T'as pris le taxi.
Non, mais alors je passe devant la gare où je sors du métro avant d'arriver à Gameblog, et je vois Eric. Taxi avec la typo de Crazy Taxi, etc. Genre tout pareil, sauf que le Crazy il l'a remplacé en Eric Taxi. Mais toute la typo, le truc, okay.
Avec
sur
du punk rock à fond qui sortait de la voiture.
Est-ce qu'il y avait du Offspring, c'est ça?
Voilà, ouais, j'espère bien. Et alors franchement, ça m'a donné presque envie d'essayer de faire une course avec lui.
Mais t'imagines que le mec, ça se trouve. Mais
c'était un vrai taxi.
Oui, c'est un vrai taxi.
Et ça, y avait et ça se trouve sur son écran, il y a la flèche pour te diriger.
Quand il est passé, t'as pas fait ya 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 ya.
Et je te donne des pourboires quand tu frôleras les bagnoles.
Si vous le voyez à Paris.
Bah on va chercher ça surtout après, voir si ça si on peut commander et tout, hein, ça m'intéresse. Bah tiens Julien,
bonjour,
ça va être ton tour. Enchanté. De nous parler de ton hors-jeu de la semaine.
Tout à fait.
Un hors-jeu plutôt en off, hein, j'ai envie de
alors,
dire.
Alors bah complètement en off puisqu'il s'agit de cela alors attendez, si je mets les mains là, voilà.
De toute façon Poufy a des images.
Tac toujours. Le bal des désingueurs. Un livre truculent rythmé par des scènes inédites et de nombreuses révélations. Laurent Bazin et Alba Ventura nous entraînent dans les coulisses les plus secrètes de la vie politique. Alors c'était très intéressant parce que en fait il y en a de plus en plus, hein, des livres comme ça. Mais ce qui m'intéressait là en l'occurrence, c'est de montrer à quel point dans des médias, des milieux, on va dire, d'immatures, le on et le off, et pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est le off, c'est quand vous
c'est
êtes
off the record, c'est-à-dire tu ne l'enregistres pas.
Là, en l'occurrence,
ces
journalistes
jamais.
Sont en contact, vont à des petits déjeuners, à des déjeuners, rencontrent les politiques, discutent avec eux. Et puis parfois on leur dit, mais ça c'est du off, hein. Comme ça nous arrive aussi, hein. Parfois on parle avec Nintendo, des représentants de Nintendo, de Sony, de Microsoft, et puis ça je peux le dire? Non, ça par contre tu peux le dire, etc. Quand on vous dit genre les infos, le machin, etc., ça vient souvent de ça. Mais nous on respecte totalement le off, parce que sinon quelque part, si vous ne respectez pas le off, bah les gens veulent plus vous faire de confessions, de révélations, etc. Et ces off-là, ils sont néanmoins intéressants parce qu'ils permettent, pour notre culture à nous de l'industrie, de mieux comprendre des choses qui vont se produire parfois 2 ans, 3 ans après. Donc en fait, ça sert, mais on ne doit pas les utiliser tout de suite. Bah maintenant, ils en font des livres, voilà. donc là, il y a carrément une tonne de petites phrases, de choses sorties, etc., qui sont mais assez
hallucinantes. C'est vrai, tu as des extraits qui t'ont particulièrement marqué.
Ah bah, j'ai un truc, mais alors je commencerai par une phrase de Hubert Beuve-Méry, qui est le fondateur du journal Le Monde. Et qui disait quelque chose que moi je trouve très juste, et qui souvent vous l'explique, on essaye de vous l'expliquer, parce que vous savez, évidemment, et si je voulais parler de ce livre-là, c'est aussi pour ça, il y a toujours cette histoire de collusion entre la presse et les intervenants du milieu considéré. Donc là, les politiques, chez nous les éditeurs, etc. Il y a des gens qui trouvent qu'il faudrait jamais qu'on soit en contact avec eux parce qu'on va être perverti, parce que forcément on va céder aux choses, etc. Alors que beaucoup de journalistes, et nous on considère cela, au contraire, il faut ces moments de proximité pour avoir des informations et garder nous notre ligne et notre distance. Et bien qu'est-ce que dit Hubert Beuve-Méry, justement fondateur du journal Le Monde? Il dit le journalisme c'est le contact et la distance. C'est exactement cela, c'est-à-dire il faut être suffisamment proche et même en proximité, avoir des relations, c'est des gens, nous, Julo, moi, Traz, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, forcément, il y en a, on les a croisés un nombre X de fois, il y en a avec qui on s'entend bien, d'autres on s'entend moins bien, d'autres c'est assez neutre, mais je veux dire, l'important, c'est de garder cette distance à la fin, mais par contre, essayer d'avoir le maximum d'infos, etc., c'est important aussi, mais pour vous en fait, parce que comme ça nous permet d'avoir un avis le plus éclairé possible. Et alors si vous voulez des petites phrases, je vous en sors une ou deux. Hollande, c'est un fonctionnaire qui a réussi le concours du président.
Et c'est le
Malek Bouti.
D'accord.
Fillon est mort, mais il ne le sait pas encore. J'aime beaucoup. Sébastien Huyghe.
Fan de Cannes survivant.
Manuel Valls, dans un éclat de rire. J'arrive pour tout régler en 2022.
Ah bah ça, il va régulariser du monde, oui.
Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit Sarkozy, comme homme politique, il est très fort. Comme homme tout court, il est pathétique. Voilà, bon, ça c'est. Marine Le Pen. qui parle de son père.
Ouais.
Le Pen est fait pour être candidat au régional comme moi, danseuse au Crazy Horse. Voilà. Et comme ça, bah il y en a 300 pages.
Ça aurait pu s'appeler les punchlines des politiques.
C'est ouais. assez.
Est-ce que c'est pas dans ce livre, je l'ai peut-être pas lu en entier encore, mais qu'il y a une réflexion de je sais plus qui de son propre camp qui dit de Hollande après les attentats, il a décroché le jackpot.
Ah oui, oui, c'est là-dedans. Et alors, justement, ça commence
c'est terrible.
Quasiment.
C'est horrible. Et c'est là que tu comprends ce qu'est la politique.
Alors,
dans le fond.
Je sais pas combien de premières pages, ça commence en fait 7 janvier 2015.
Ouais.
La journaliste en question, Alba Ventura, est invitée à l'Elysée pour un petit déjeuner, pour parler de machin. Vous lui volez la COP21, mais elle, ce qui l'intéresse plus, c'est à quel point cette année risque d'être tendue pour Hollande et machin. Et à ce moment-là, les attentats se produisent, stupeur et machin. Et donc, boum, ça souffle sur toute cette séquence-là. Tu vois comment c'est politisé et comment, et oui. du côté de Hollande,
comment
et tout,
ça va être récupéré.
Amen, génial. Et comment Julien Drey explique, machin. Bah, c'est super, bah non, il faut qu'on surfe là-dessus et ça. Mais, direct derrière. Il montre aux journalistes, il a filmé une vidéo de Hollande qui est tout en contrition avec Sarko qui est juste derrière. Il dit regarde ta gueule, on l'a bien baisé et tout. C'est la politique.
C'est House of Cards, quoi.
J'espère qu'il tue moins. Enfin, même si bon, il y a quelques soupçons, mais c'est dur. Mais c'est ça aussi. Voilà. Donc je trouve ça assez édifiant, assez transparent. Voilà. Est-ce qu'il faut néanmoins publier les offres? Moi, personnellement, je dirais non.
Bah, en tout cas, eux, ils en auront plus. Hein.
Ah bah, c'est pas. Mais alors,
c'est pas dit.
C'est ce qu'ils expliquent justement. C'est pas dit du tout. Parce que maintenant, ça fuite tout le temps. Et pour autant, d'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent. Pendant les attentats, eux, ils pensaient que pendant genre les 2 semaines des attentats, tous les petits repas, les petits déj allaient être suspendus. Parce que les mecs, ils avaient un emploi du temps de ouf, etc. Plein de trucs ultra plus importants et essentiels. Mais pas du tout.
Si je dis pas de bêtises, François-Olivier Gisbert, il avait écrit un livre de off aussi.
Bien sûr, sur Sarko, etc.
Sur Sarko,
ouais. Ouais, c'est une nouvelle mode, ça cartonne.
Et donc toi, tu le feras pas pour le jeu vidéo, du coup?
Bah, pas tout de suite. Pas quand... En tout cas, je pense pas tant que je serai dans le milieu. Si un jour je n'y suis plus, c'est une autre considération. Mais à la fois trahir des secrets, c'est pas trop mon truc. Je demande par contre, et j'ai fait tout si je sens que le truc est croustillant pour dire vas-y, permets-nous de le dire. Et je peux revenir.
Souvent,
si on me dit non,
je l'entends souvent quand je dis au téléphone. Il fait ouais, vas-y, fais pas ta pute.
Je sais respecter le non. Mais j'essaie d'obtenir un oui.
Bon, et donc il est bien le livre alors?
Bah, c'est différent après, bien.
C'est chez Flammarion, ça coûte 20 euros, ça s'appelle Le bal des dézingueurs de Laurent Bazin et Alba Ventura. Voilà. On va passer au dernier hors-jeu qui roule pas mal. Hein.
Oui, ça roule bien. Alors je vais vous parler d'un projet Kickstarter qui s'appelle On Wheels et qui est français, figurez-vous. Boîte qui s'appelle Flammers qui avait lancé
Flanners.
Ça. Flanners,
t'as dit Flammers.
Flanners, pardon.
Non, je sais bien que t'as envie de tout cramer.
C'est ton hors-jeu,
Non, non, pas du tout. C'est juste que je connais bien aussi. On en a parlé beaucoup.
Donc, c'était un Kickstarter qui demandait 30 000 euros pour construire quoi ? Des rollers qui peuvent s'adapter en fait à n'importe quelle chaussure. Parce que vous savez, le principe des rollers,
c'est que c'est moche,
c'est que c'est lourd.
Il faut les trimballer,
etc. Donc, il y a eu quelques tentatives. On a quelqu'un dans le milieu qui s'appelle Cyril Bérébi. Voilà. Qui utilisent beaucoup ces trucs-là. Mais en fait, ça a été fait, mais avec des chaussures absolument affreuses.
Non, mais tu peux le dire, Cyril porte des godasses de ski en permanence.
C'est comme des chaussures de ski sur lesquelles il met des trucs. Voilà. Bon, là, ça peut s'adapter sur n'importe quelle chaussure ou presque. En gros, ils ont fait une sélection de quelques pompes, vous voyez,
de chez Adidas, Nike,
voilà,
Reebok,
de chez Adidas, Nike ou Reebok. Et vous pouvez vous-même leur envoyer vos chaussures et ils adaptent ça. Alors, en gros, c'est quoi ? Un petit ustensile qui est incrusté sous la semelle de votre pompe et qui permet de mettre en toute simplicité un truck tout fin avec 4 roues. Ah, c'est des quads, hein, c'est des roller quads.
Les meilleurs, les vrais.
Voilà, exactement. Et de les adapter et de les enlever et de les mettre en 2 secondes et de passer en roller par roller, vraiment d'un petit coup de. Il y a un petit accessoire comme ça qu'on glisse derrière pour l'enlever. C'est tout simple. Le Kickstarter a cartonné. Il demandait donc 30 000 euros. Ils ont eu 94 900 euros, donc 95 000 quasiment.
Mais ça, c'était il y a un an. Pourquoi on en parle maintenant?
Et c'était il y a un an. Et on en parle maintenant parce que figurez-vous qu'ils vont profiter.
Oui, parce qu'on en a parlé beaucoup avec Julo, je te dis.
Ils vont profiter des beaux jours pour sortir finalement. leur roller on wheels dans le commerce, hein. Mais avant ça, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de ventes privées, on va dire, pour les gens qui évidemment ont kickstarté, qui ont suivi, comme c'est le cas de Plumeau, l'affaire de près, et qui se sont abonnés à la newsletter. Mais en tout cas, dès cet été, on va pouvoir en profiter. Et comme vous pouvez le voir en image, c'est un projet qui a été vraiment traité très au sérieux, avec des professionnels, hein, des sportifs professionnels, hein, de roller, et qui a été conçu comme ça pour vraiment répliquer les sensations qu'on avait avec des gros trucs affreusement lourds et affreusement chiants à trimballer, et là les adapter sur vos pompes. Je trouve que c'est un principe absolument génial, voilà.
Et là on voit que tu peux même le faire avec des chaussures de ville.
Absolument. Et tu peux même le faire, voilà, quand ils disent que c'est adaptable à toutes les chaussures, vous pouvez aller voir sur leur site, il y a des specs, on va dire, à respecter. Il faut que sur le talon, sur le devant de la chaussure, il y ait une largeur minimale. Vous regardez si vos pompes sont compatibles, et il n'y a absolument rien qui vous empêche de les envoyer pour les faire adapter et recevoir, moyennant 300 à 400 euros, votre paire de rollers.
Ah, t'avais gardé le prix jusqu'à la fin. Ah voilà. Oui, c'est pas donné quand même.
C'est plus cher quand t'envoies toi-même tes pompes. Uh-huh. Sinon, tu peux les commander directement. Tu choisis ta pointure.
Et tu fais la modif toi-même.
Non, non, ils t'envoient directement la pompe.
Tu choisis le modèle de la pompe que tu veux.
Ils ont une sélection, hein, avec les Nike, comment elle s'appelle, c'est Nike
c'est
les Dunk.
C'est les Dunk.
Ouais. Avec les Reebok classiques, etc. Donc tu peux choisir, mais tu peux aussi, si t'as ta paire de baskets que t'as toujours rêvé d'avoir en roller, voilà, bah tu peux aussi la faire adapter.
C'est plus pratique, hein, que quand on les faisait nous-mêmes. Moi, je me rappelle que j'avais fait mes pâtés wing comme ça.
Ouais, moi je les ai fait moi-même aussi avec. Avec
ça avait demandé du temps, hein, puis il fallait être très précis au niveau du. Bah, fallait. Du perchage, moi,
j'allais chez Hawaii Surf à Paris, à Ivry.
Ah oui, à Ivry, mais j'y suis allé aussi. Dis donc,
c'est mes
derniers
premiers
rollers,
à avoir
fait
vendu des roues crypto, c'est j'ai fait adapter moi des Reebok. Mais après voilà, c'est
quoi les roues crypto?
C'était des roues en gomme qui sont les plus communément utilisées aujourd'hui, parce qu'à l'époque on avait t'achetais des rollers, enfin moi à mon époque dans les magasins de jouets, c'était des trucs un peu pourris qui faisaient beaucoup de bruit là.
Voilà.
Et d'un seul coup, un pote se trouve les roues cryptos là à Ivry, et c'était la révélation, quoi. C'est des roues qui faisaient aucun bruit, en gomme un peu plus molle,
avec des bons roulements.
Voilà, des bons roulements à billes, très bons roulements à billes. Et puis après, du coup, bah t'investissais dans des nouveaux trucks, donc la partie qui tient les roues et qui se met sous la chaussure, etc.
T'avais aussi acheté un truc de hockey ou pas?
Non.
Ah, moi j'avais carrément ça, on faisait ça avec mes potes. Ouais.
T'avais quoi?
Ah, tu sais, les crosses de hockey. Aussi, on se faisait des
hockey. Tu arrives silencieusement derrière les gens, tu les fauches, tu piques leur sac. Ouais. C'est à ce moment-là que la carrière de voleur
non,
de plumes a commencé.
J'étais plus rando et freestyle, quoi. J'aimais beaucoup me balader, et quand je me posais à un endroit, par exemple devant le musée d'Orsay.
Tu remettais tes baskets?
Non, c'est pas ça, on faisait des sauts de marche, des 360.
Bah voilà, ça se trouve, à la fin du printemps, toi et moi, ça se trouve, on va venir à la rédac en
roller. Je me suis jamais fait au inline, moi. Bon. J'en ai eu un
non
moment.
Plus. Blade.
Ouais, ouais. Les rollerblades, quoi. Vraiment.
Non, c'est pas bon.
Ah, si,
moi, si, c'est très simple.
Moi, je préfère
les quads.
J'ai plus fait des blades que des quads.
Parce que t'es plus jeune que nous, c'est pour ça. Beaucoup plus jeune que nous.
C'est vrai, ça, on pourrait se faire une petite rando comme ça. Dans Paris.
Ouais.
Parce qu'en plus, on est dans une ville si merveilleuse à explorer comme
alors,
ça.
Moi, je rêve d'envie de pouvoir enfin en refaire du roller, mais je sais pas si mes muscles tiendront. Bref.
Oh là 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 là.
C'est moche.
Ouais, c'est moche, ouais, je sais. En tout cas, c'était des petits hors-jeux bien cool. Hein. Ouais, bah, regarde, ça se trouve. Mais rien que quand je me lève, là,
tu
j'ai
prends
mal,
l'ascenseur,
hein,
pour venir jusqu'ici, non? Parce que
non,
de cet âge, je monte à pied quand même.
Ça, c'est Traz et Carole. Je veux pas balancer, hein, pardon. Bon, en tout cas, c'était des petits hors-jeux bien cool, encore une fois, pour cette semaine. Merci, Julo, merci, Thomas, merci, Julien.
Merci, Plumeau.
Et maintenant, j'ai envie de vous remercier pour ce.
Thomas va pouvoir repartir à Gamekult.
Postcat. Ah oui, c'est vrai.
Tu as dirigé la rédaction.
Oui, il va falloir que tu.
Parce qu'il est quand même rédacteur en chef du site.
Mais bon, merci, Carole, de l'avoir fait remarquer.
Et c'est beau, cette fraternité entre les sites, ça nous a fait plaisir.
Ouais, ça
c'est
change.
L'ouverture.
Merci Julo, merci Thomas, 2016. Merci Julien pour ce podcast. Merci Poufi à la Sono et à la Réal, comme d'habitude. Merci à vous. Vous, là, oui, vous, juste derrière, là, qui nous écoutez ou qui nous regardez,
surtout
si
toi.
Vous êtes premium.
Cool.
Oui, tiens, c'est vrai, toi, là-bas.
Ça nous a fait plaisir.
Oh, puis t'es bonne en plus. Pardon.
Oh. Fais gaffe, t'es vieux et t'es grave. Attention.
Oui, pardon, oh là là, si on peut plus se marrer dans les podcasts.
Tu as 12 ans.
Non.
Ah, mais dans pas longtemps, il va finir aux grosses têtes, hein, comme ça.
C'est vrai.
J'aimerais bien, hein, ça rapporte de la thune. Bon, bref, merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Libéré, où est-ce qu'il ça?
Bah, Jean-Pierre Coff, il n'y est plus.
Ah, ouais, tiens, c'est vrai.
Il était au gros stage, Jean-Pierre.
Bah oui.
Ouais, c'est vrai. Oh mince.
Ah, je sais pas.
On salue. Merci à vous de nous avoir
suivis.
C'est
vrai, comme
chaque
semaine. Jean-Pierre Coff.
Voilà. On salue sa mémoire.
J'aimais bien.
C'était pas de la merde.
Exactement. Il avait des belles lunettes, en tout cas. Bref.
C'est pas parce que j'en ai pauvre qu'on doit manger de la merde.
C'est de la merde.
C'est faux.
Ouais, mais tu vois, ça me manque les gens comme ça. Je trouve. Bah, c'est-à-dire qu'il a ses excès, etc. Mais
ah,
il
c'est plus
policé
aujourd'hui.
Bah là, t'avais commencé ton début d'imitation, c'était un peu plus Jean-Claude Larue quand même. Hein.
C'est de la.
Oh bah les deux sont.
Venez, il y a des gonzesses.
Il y a des filles à Paris Games Week. Mais c'est de la merde. Et quand même, c'est là où quand tu revois ce genre d'image là, tu te dis quand même, putain, on a un peu vieilli, ou en tout cas ça a été décapité parce qu'il y a Jean-Luc Delarue, Jean-Pierre Coff. Ça commence
mais
à débiter un peu.
Kikement,
qui est le prochain?
Oh, mais on va pas commencer à faire ce genre de choses.
Vu son état, non ?
Ouais. Bah, y en a un qui va être mis au placard bientôt, donc. Est-ce que c'est un signe ?
Hein ? De qui ça ?
Il est sur France 2, il est là depuis 400 ans.
L'Émergie ?
Non.
Hein ?
Non, celui qui fait le dimanche, là. Comment il s'appelle ?
Qui fait le dimanche ?
Drucker ?
Drucker.
Ah bon ?
C'est bientôt la fin de Drucker.
C'est vrai ?
Ah bon ? Ouais, ouais, ouais.
Comment c'est possible ?
Ah bah, ils arrêtent vivement dimanche et je sais pas quoi.
Mais oh, lui il prend sa retraite ou il est viré ?
Bon, je pense que. Non, non, mais
enfin, il est gentiment,
ça fait partie du jeunisme qui est en train de se.
Vous en avez rêvé, ouais. France de la fait.
Voilà.
Bah, ouais, il va être récupéré par Canal Plus.
C'est pas. Consultant.
Improbable.
Les audiences de Canal Plus.
Ouais.
C'est moins 60% pour le grand journal, moins 40% pour le petit journal.
Merci Bolloré. Et vivement Drucker. Drucker au petit journal.
Bon, c'était bien cette fin d'émission.
Ouais,
j'ai...
C'était vachement bien. Complètement, vous a bien motivé avec toutes ces choses sur la télé. On fera un podcast spécial télé un de ces
quatre. Alors, et puis oui. Il faut savoir aussi que Julien imite très très bien Nikos. Parce que tout le monde ne le sait pas.
Ah bah d'ailleurs, c'est quoi ? Tu vas faire la fin. Oui. En imitant Nikos.
Ah oui, voilà.
Parce que tu veux
imiter Nikos.
Ça fait longtemps que je le fais plus quand même.
Bon, tu rigoles ou quoi ? Tu le fais tous les matins.
Bonjour, bienvenue. Extraordinaire. Une exposition de photos. C'est où ? C'est la conciergerie ?
Oui.
Retrouvez-moi à la conciergerie dans mon exposition de photos incroyable. Et évidemment, sur Gameblog, tous les mercredis. C'est mercredi.
Attends,
mercredi.
Je ferme les yeux pour y croire.
Mais
attends.
Je fais plus bien. J'ai.
Bah, ah, tu le fais bien. Tu
non,
fais
non,
bien.
Il vaut mieux que je sois debout. Sur le plus grand plateau du monde. Non, je sais.
Tu vois, c'est de te foutre de nous.
C'est,
bon,
c'est
là,
de la fausse modestie.
Oui, tu fais ta diva là.
Bonjour. Bon, non, mais on y va.
Bon, on y va à la merde.
Bon,
on y revoit.
Je vous dis avec un petit sourire et plus grande défermeté.
Non, par contre, un Sarkozy, tu le fais pas super. Ça, je suis pas trop d'accord.
Ouais, mais j'ai une sympathie pour son déhanché. C'est rigolo. Tu danses un peu en même temps. Tu fais comme.
Vous savez faire des imitations avant qu'on se quitte là ?
Pas du tout, je suis hyper nul, mais c'est.
Oui, je suis pas sûr d'avoir envie que ça reste en vidéo aussi.
Vous êtes sûr ? T'as pas une petite imitation à nous faire ?
Non, je te dis, moi, quand j'imite l'accent américain, ça vire à l'accent africain. je suis incapable de faire le belge ni le québécois. Enfin, je suis nul en imitation.
C'est vrai ?
Ouais.
Je vous demande de vous arrêter.
Bah, moi, j'en ai pas non plus, alors comme ça, au moins, on va laisser Julien avoir le mot.
S'enfoncer, voilà.
Non, il va nous faire la conclusion habituelle avec la voix de Nikos. Parce que
tu tiens. D'accord.
Ah oui, j'y tiens à fond, ouais.
Attends, c'est quoi la conclusion ? Ça fait longtemps que je suis.
Pas la conclusion, tu la connais par cœur.
Surtout, jouer de la c'est ça.
N'hésitez pas à aller dans les commentaires.
Ouais, puis non, puis attends.
Tapez 1.
J'allais dire, n'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine dans The Voice pour un prime exceptionnel.
Je regarde plus du tout la télé, moi
non plus.
C'est un enfer.
Allez, bon courage, nous on va qui ? On va
s'en aller,
on va s'en aller en attendant.
Bien sûr, retrouvez-nous dès la semaine prochaine sur Gameblog dans le plus gros plateau d'Europe. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt. Et tapez 1.
Ciao.
Salut.
C'était
salut
naze.
À tous.
C'était naze. Écoutez, bonjour.